On y va? Vous êtes prête?
Oui.
Ça va être hyper difficile là. Non, là, je sens que ça va être difficile. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Avec aujourd'hui Flavie. Flavie, ça va la pêche?
Ouais.
Et nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel mes frères, bonjour.
Hello.
Alors là, elles sont on fire, hein, je vous préviens. Elles se marrent depuis trois fois. On a même eu du mal à commencer ce podcast. Emmanuel Meffray est avec nous, de retour.
Emmanuel sur podcast.
Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu ta voix.
Ça super longtemps, vous m'avez manqué.
Et,
oui.
Et pourquoi? Parce que t'es parti à l'autre bout de la planète.
Ouais, c'est ça. Le sud, quoi, l'endroit où on n'est pas si
mal. Tu
n'as
pas d'accent,
finalement.
Je suis un peu déçue.
Si, si, non, et j'arrive toujours pas à dire chocolatine. C'est non, je suis pas intégrée.
Paris dit pain au chocolat. Alors la France dit pain au chocolat.
Oh mon Dieu, je suis en train de jouer avec les potards pour essayer de calmer un peu les oscillations de ce podcast. Et je crois que j'ai vraiment bien du mal à gérer ça. Alors Emmanuel, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? Parce que Flavie, on la connaît, elle co-dirige la série depuis des années. Elle essaye de faire un jeu de rôle, mais bon, on en verra la couleur, je ne sais pas.
Au moins en 2022.
Animatrice de Pédagofly, avec un peu de chance, on aura peut-être des vidéos un jour.
Yeah. Hein, ça va venir plus vite que prévu, ça, je crois.
D'accord, ok.
Pas en 2022.
Non, mais c'est bien, ça, je te le fais dire dans les podcasts, comme ça, ça va nous obliger, tu vois, on va aller plus vite. Hein?
C'est pas pour ça que je vais plus vite sur mon jeu de rôle.
Non,
ça, c'est tu m'avais dit on va faire un podcast, comme ça va te motiver. Bah ouais, mais le boulot fait que...
Voilà. Mais tu t'es débloqué quand même sur le passage récemment.
Ouais, d'ailleurs on va en parler ce soir.
On va en parler
parce que
ce soir.
Parce que c'est un podcast de garage.
Ah. Voilà, et donc on va parler aussi du jeu de Flavie du coup par la même occasion. Alors Emmanuel, on revient à toi. Quelles sont tes actus? Qu'est-ce que tu fais là de beau là?
Plouf, 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 plouf. Bon, je fais semblant d'être prof un peu quand même, hein, parce que bon, il faut. Et puis sinon, bah, j'essaye de faire pas mal de trucs de mes 10 doigts, j'essaie de diversifier un peu, il y a toujours un peu d'écriture qui traîne, il y a un peu de peinture qui s'y met aussi, du coup...
Ça m'intéresse de voir.
Ouais, je montre, il y a le gros du travail, là, ça a été ouais, beaucoup d'aquarelles et encres. J'ai bossé sur des haïkus de copains. Parce que finalement, j'aime bien le transmédia, on se cachera pas, hein, quand on commence à associer des arts un peu divers et variés, c'est cool. Donc ça a été une belle inspiration, voilà, avec un type qui s'appelle Grégory Métayer, un autre qui s'appelle Clément Salmi, on a fait un petit truc à trois, on a remué les méninges, et puis y a une petite expo qui est née, qui va passer de ci, de là. Donc
cool.
Voilà, haïku, cool. Aquarelle, et puis je continue sur la lancée, en essayant de développer un peu le truc. Ça se met en place.
Je dirais même high cool.
Oh yeah! On est vendredi soir, je dis oui. C'est je dirais peut-être pas ça en début de semaine, mais écoute, là, moi, ça reste tout à fait une blague correcte.
D'accord, ok.
Donc voilà pour
et
ça.
Et puis, un spectacle aussi.
Ah, et le spectacle. Alors ça, c'est bon pour les oscillations de tes potards, effectivement. Ouais, ça, c'est les poèmes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de poèmes érotico-féministes qui ont été écrits ces derniers mois, qui ont fait l'objet d'un bouquin qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais ça va venir. On attend le boulot du photographe, toujours pareil, hein, plein d'art.
On attend toujours l'illustration, de toute façon.
On attend toujours l'illustrateur. Ouais, c'est ça. Mais bon, il fait un peu froid pour mettre les modèles à nu, donc on va attendre un petit peu encore. et puis, ça donne un spectacle. Donc, c'est en cours. Ça s'appelle Danse des Flammes. Et puis, duo, homme-femme, il y a du féminisme, il y a du désir, il y a du...
Il y a du cul.
Il y a du cul partout,
putain,
quoi.
La forge a mis du cul dans la partie, hein.
Emmanuel a mis du cul sur scène aussi.
Exactement.
Voilà. Bon, donc, ouais.
C'est cool, c'est génial. Donc toi, vraiment, tu es parti. Finalement, tu travailles plus du tout sur du jeu de rôle maintenant, quasiment pas. Tu joues moins qu'avant aussi.
Moins qu'avant. Je suis un peu isolée là. Du coup, l'Ariège, pour trouver des joueurs, c'est pas évident. Ceci dit, s'il y en a
beaucoup.
Qui écoutent, je suis prête. Venez à la maison, il y a de la place. Venez jouer, venez mener, venez. Venez tester plein de trucs.
C'est vrai que je te disais,
en jeu de rôle.
En préparation
en
du podcast,
rôle.
Je te disais.
Pour le cul,
quand on bouge beaucoup. J'essaye d'être sérieux.
Pardon, désolé. J'avais pas compris qu'on était sur France Culture.
Oh mon Dieu. Quand on bouge beaucoup, C'est difficile d'avoir des tables régulières et tout, de trouver des rôlistes. Mais voilà, Emmanuel a lancé un appel. Hein, si vous habitez en Ariège, n'hésitez pas à contacter Emmanuel dans les commentaires de ce podcast ou je ne sais où d'ailleurs. T'es disponible sur Facebook.
Oui, partout.
Manu Méfray, c'est ça?
Facebook.
Manu M.
Ouais, M apostrophe F-R-A-Y. Mais je crois même qu'il y a mon mail qui doit traîner quelque part sur la
page de présentation des podcasts, effectivement. Voilà, tout quoi. À fait.
Voilà. Ou sinon, pigeon voyageur, signaux de fumée, ça arrivera jusqu'en Ariège. On devrait y arriver.
Alors, aujourd'hui, thématique garage, dans le dernier garage, dans un des derniers garages qu'on avait enregistré, à un moment donné, au cours de la conversation, nous avions fait une espèce de distinction entre, d'une part, l'accessibilité, qui est la façon dont on obtient un jeu de rôle, donc le livre ou la base du jeu, hein, parce qu'on rappelle que un jeu de rôle c'est pas forcément des livres, hein, il y a des jeux de rôle qui ont été enregistrés dans les règles, ont été enregistrés en podcast, il y a des jeux de rôle qui se prennent sous la forme de poèmes, il y a des jeux de rôle qui se prennent sous la forme de vidéos, comme les jeux de Avery Alder, ils sont comme le jeu qu'on avait testé de Avery Alder là, avec la carte. Qui était un jeu de cartographie et non pas un jeu de cartes.
Mettons-nous d'accord, nous sommes vendredi soir, j'ai fait ma semaine.
Ok, moi non plus. The Quieter, voilà. Ah, The Quieter, voilà. Donc il y a plusieurs manières d'accéder à un jeu de rôle, d'accéder soit à cette vidéo, à cette base. Ça, c'est l'accessibilité. Et puis d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la transmission. La transmission, c'est le moment où enfin on a eu accès à la base du jeu. Et cette fois-ci, l'idée, ça va être de transmettre. Alors, on verra justement qu'est-ce que c'est que transmettre. Puis d'abord, transmettre quoi ? On verra qu'en fonction de sa pratique du jeu, on ne transmet pas forcément la même chose. Mais en tout cas, il y a cette question de la transmission dans le jeu de rôle. C'est-à-dire de la transmission de quelque chose. Est-ce que c'est une partie idéale ? Est-ce que c'est une façon de jouer ? Est-ce que c'est des règles ? Est-ce que c'est un système qu'on cherche à transmettre ? C'est tout ça, en fait, qui consiste en la transmission.
Et sachant Flavie... qu'on va faire ça, parce que c'est parti d'une grosse interrogation que j'avais. Donc, il s'avère qu'en écrivant mon jeu, j'étais pas satisfaite, parce que c'est un jeu qu'en gros, je crée pour mes amis. Et du coup, écrire des règles impersonnelles, ça m'allait pas. Enfin, je me vois pas... transmettre ça à des gens que je connais pas et donc je fais gros blanc. Et en fait, je me suis replongée du coup dans les philosophes que j'aimais bien, hein, et donc Quine.
Ah,
Quine qui est mon philosophe.
C'est ton Wittgenstein finalement.
Oui, peut-être pas à ce point-là, mais il faut savoir que Quine, en fait, il a écrit un truc qui s'appelle l'indétermination de la traduction. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est et je vais vous dire ensuite ce que j'en ai un peu sorti et vers où ça m'amène.
Donc voilà, donc là aujourd'hui on va parler de la transmission telle que Flavie, dans ton travail, comment la transmission a posé problème. C'est ça, hein, aujourd'hui. Oui. Donc la transmission, c'est un grand sujet. On va peut-être pas traiter totalement de la transmission dans ce podcast. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est la façon dont comment la transmission du passage a été un problème pour Flavie et comment elle l'a dépassé.
Comment je commence à la résoudre.
Et puis, sur la base de cette expérience-là, on essaiera d'ouvrir un peu le sujet et de voir si on ne peut pas parler de la transmission en règle générale, et compagnie. Voilà pour le plan. Flavie, comme vous le savez, quand Flavie est là, il n'y a pas de plan. C'est pour ça que je l'ai annoncé avant. Comme ça, elle pourra mieux le détruire. Voilà.
Donc, je suis partie du travail de Quine de l'indétermination de la traduction. Alors, pour pouvoir comprendre ce que je vais raconter après, je vais devoir vous parler un petit peu de l'indétermination de la traduction. Dans l'indétermination de la traduction, Quine explique qu'en gros, quand on se parle et qu'on... Si deux personnes qui n'ont pas le même langage se parlent, si l'un des deux montre quelque chose en disant « gavagaille », l'autre ne pourra pas vraiment savoir s'il parle de la fleur, du lapin... Alors, oui, des oreilles de lapin, gavagas et lapin, du lapin, des oreilles de lapin, ou de la queue du lapin en lui-même, du fait qu'il a un peu l'âge doux, du fait que ce soit un lapin idéal. Bref, il y a beaucoup d'indéterminations qui restent dans une traduction.
Voilà, je reprends juste cet exemple-là parce qu'il faut vraiment bien le comprendre. Quine part du principe, donc on imagine qu'il y a un anthropologue qui débarque dans une tribu qui dispose d'un langage que l'anthropologue ne connaît pas encore. À chaque fois dans cette tribu, il note que lorsqu'un lapin passe dans le champ visuel des gens, il s'écrit en le montrant du doigt « Gavagai, gavagai, gavagai ».
Mais ça se trouve, ça peut vouloir dire Dieu, hein.
Et alors, ils voient, par exemple, chez les gens, un comportement qui est, ils prennent les arcs et ils se mettent à courir après, tu vois. Genre. Tu vois, c'est vraiment très précis, son exemple.
Ouais, il y a des rationalistes qui réagissent comme ça quand ils voient Dieu, hein.
Certains, on peut rapidement se dire que Gavagai, ça veut dire lapin, quoi. Il y a un lapin, il y a un lapin, tu vois. Un peu comme dans là-haut, quand on dit au chien écureuil, et que hop, il se retourne, hop, écureuil, écureuil, ou ça, écureuil. Tu vois, il y a un côté comme ça, quoi. Et donc, l'anthropologue en infère naturellement que Gavagai, ça veut dire il y a un lapin, courons-lui
mais
après.
Le problème reste où est la forme syntaxique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ça. Bref, il restera toujours une forme d'indétermination. Dans la traduction, aussi poussée puisse-t-elle être,
voilà.
Et qu'on ne pourra même jamais dépasser, mais qu'on pourra tendre à amenuire. Plus il y aura de répétitions, plus on se rapproche peut-être de ce que ça veut dire exactement, mais on ne pourra jamais totalement le dépasser.
Imaginez par exemple que par la suite, après avoir assisté à cette chose, notre anthropologue assiste à une femme qui est en train de, elle est en train de laver son linge, en train d'éteindre le linge dehors, et il y a un lapin qui passe dans le champ. Et là, pareil, la femme s'écrie « Gavagai, Gavagai !» Mais cette fois-ci, il n'y a pas de chasseur. Personne ne prend les arcs, personne ne prend les flèches pour chasser. Du coup, l'anthropologue se dit « Ok, d'accord. » Donc eux, quand ils voient un lapin passer... Parce que Gavagai, au départ, quand il l'a vu dans la... tout le monde s'est mis à chasser. Donc ça pouvait être... allons à la chasse.
Ouais.
Là, il confirme un peu plus qu'on parle quand même d'un lapin. Tu vois.
Et pour placer le truc, il faut quand même dire, il me semble que Quine, c'est quand même un gros polyglotte. Hein. Il est donc, quand toutes ces questions-là, il y a quand même vachement réfléchi. Quoi. C'est vraiment des choses qui le touchent. Quoi.
Ouais. Et alors, juste pour finir, c'est-à-dire que on répète comme ça l'expérience, mettons qu'une troisième fois, ce soit un enfant qui fasse Gavagai, Gavagai, en montrant du doigt, etc., un lapin. Mais n'empêche qu'on ne sait toujours pas si c'est un lapin ou pas. Bah, même si l'expérience, imaginons, se répète mille et une fois. On ne sait pas parce que... on peut présenter toutes les situations dans lesquelles on a dit Gavagai. N'empêche qu'on ne sait pas si ça fait effectivement référence à un lapin tel que les Français disent lapin, si ça fait référence à un dieu qui aurait des oreilles de lapin, etc. Si ça fait référence au segment temporel de lapin, comme dit Quine, c'est Quine qui le dit, c'est-à-dire que quand on voit passer un lapin dans le champ visuel, on dit Gavagai, mais si ça se trouve, si le lapin a toujours été là, a toujours été fixe, a toujours vécu dans le foyer, bah quand on le voit, on dit plus Gavagai. On dit par exemple Lola ou Benjamin ou Michel, c'est le nom de tous mes lapins.
Donc finalement, comme n'importe quelle déduction scientifique, la seule chose qui permettrait d'avancer un peu dans le raisonnement, ce serait de pouvoir infirmer le truc si par exemple on entendait Gavagai autre chose qu'un lapin.
C'est là où Quine va plus loin. C'est que Quine dit de toute façon on ne pourra jamais savoir. Donc ce qui fait qu'on va continuer, c'est qu'on va dire bah tant pis, il y aura toujours une part d'indéterminé qu'on remettra toujours en fait au crible de l'expérience, et il faut apprendre à vivre avec ça. Point. Et en fait c'est ça qui m'a débloqué pour mon jeu de rôle.
Alors vous vous rendez compte, alors juste pour comprendre, parce que moi je trouve ça, alors l'indétermination de la traduction chez Quine, elle est universalisée chez Quine. C'est-à-dire que ce qu'il dit pour Gavagai et pour l'indétermination de la traduction du français vers l'anglais, du français vers le langage des Gavagai, etc., c'est aussi valable du français vers le français.
Quand l'enfant apprend, par exemple, à dire « maman », en fait, il a ce qu'on appelle une grille devant lui, où il a l'habitude, quand ses parents le voient, ils disent « oh maman, regarde, c'est maman, c'est maman ». Il a une grille qu'il repère, en fait, dans l'image de quoi, il repère des grilles qui semblent correspondre à « maman ». Ah bah quand cette personne-là, il y a du lait, etc. Enfin, ouais. Ça a l'air d'être maman. Mais l'enfant va apprendre à vivre en pensant que c'est maman. Mais si ça se trouve, maman en fait ne veut pas dire la même chose pour lui que pour nous.
C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça, c'est là que le behaviorisme de Quine est important. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que c'est pas parce qu'un enfant dit maman dans certaines circonstances qu'il fait forcément référence à la même maman que moi. Ou en tout cas qu'il a le même concept de maman. C'est-à-dire que cette indétermination de la traduction, elle est applicable aussi conceptuellement parlant.
Ouais, parce que le concept que l'enfant a de maman diffère peut-être de mon concept à moi sur certains points, et peut-être qu'on se comprend pas beaucoup ou pas tant que ça, et que ça va amener des quiproquos plus tard qui nous amèneront finalement à aller plus loin sur ce concept de maman pour réussir à nous comprendre. Mmh. Ce qui veut dire que il faut être toujours en rapport avec ce concept, avec des gens que tu vas être de plus en plus amené à être en avec des gens avec lesquels tu seras de plus en plus amené à être en contact pour pouvoir aller de plus en plus loin dans ces concepts-là.
Et ça, c'est un problème qu'on trouve, par exemple, en politique. Le terme maman m'y fait penser. Si on prend le terme maman tel qu'il est employé par quelqu'un qui va être au sein de la manif pour tous, et le terme maman tel qu'il va être employé par une féministe, je veux dire, au sens où un féministe, je veux dire, au sens de s'inscrivant dans l'histoire culturelle du féministe, tu vois, ayant lu les œuvres féministes, ayant travaillé ces sujets, etc., le terme maman ne sera pas employé avec la même, tu vois, avec le, ce sera pas le même concept parce qu'il n'aura pas les mêmes contours, les mêmes combinaisons de possibilités.
Alors je sais bien que ces concepts-là, le concept de l'indétermination de la traduction a été très travaillé, même encore après et dans d'autres courants, etc. Mais il se trouve que, moi, c'est Quine que j'ai lu.
Voilà. Ouais, non, mais voilà, c'est intéressant. Emmanuel, tu avais une question.
On peut envisager aussi, enfin, du coup, ça semble découler un peu de source que finalement, c'est ce qui est manipulé quand on commence à essayer d'associer des concepts. Toujours pareil en politique, dire par exemple associer l'étranger à la peur, à l'insécurité. C'est finalement une recréation d'une nouvelle association.
Alors c'est pas tout à fait des associations indétermination de la traduction. Ça peut s'y rapporter, mais là tu vas plus loin. En fait, le concept est vraiment très simple. En fait, c'est d'ailleurs la force de Quine. C'est on parle d'un mot, même un mot simple, tu pourras jamais savoir.
Être certaine.
Certain à 100%. Ouais. Si la personne en face de toi comprend ce que tu veux dire. C'est impossible. Mmh. Et surtout, ça amène au ce que moi j'adore chez Quine, son pragmatisme. C'est de toute façon, il va falloir que tu apprennes à vivre avec.
Ouais, ça c'est génial chez Quine.
De toute façon, peu importe, tu ne seras jamais certain des choses qui t'entourent. Tu ne pourras jamais être certain d'avoir une véritable compréhension avec les gens qui t'entourent. Et ça, il va falloir le comprendre parce qu'il va falloir que tu aies des relations réelles avec eux. Et donc, il va falloir que tu acceptes cette frustration. Mmh. Et de toute façon, c'est ce qui va amener la richesse, en fait, pour Quine aussi, des rapports humains. Parce que du coup, il va falloir que tu y ailles, quoi. Et tant pis, il va falloir que tu acceptes que tout ne soit pas certain. Et ça, c'est hyper important, mine de rien, en philo. Parce qu'en fait, il a dit, c'est pas certain, et alors? Tu vas accepter, quoi. Tu vas accepter que tu ne pourras jamais être sûr. Et je trouve ça incroyable.
Sage, en tout cas. Voilà.
Oui, c'est vraiment ce pragmatisme qui a d'ailleurs été très, très... Qui a posé problème à l'époque parce que ça se rapprochait presque d'un relativisme au final.
Ouais, tout à fait.
Dont il se défendait d'ailleurs parce qu'il disait non, attention, je dis pas que c'est pas possible de se comprendre, je dis qu'on pourra jamais être sûr qu'on s'est compris.
Ouais, c'était un point intéressant. Et tu faisais le rapprochement avec les sciences, Emmanuel, tout à l'heure. On t'a pas laissé vraiment développer l'idée, mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'induction là-dedans, des problèmes liés au raisonnement inductif. Je vois un corbeau, il est noir, un deuxième corbeau, il est noir, un troisième corbeau, il est noir, et de là, j'en affaire, tous les corbeaux sont noirs. Ça, c'est un raisonnement dit inductif.
Et la seule chose qui peut le détruire, c'est de voir un corbeau blanc. Tant que t'as pas vu un corbeau blanc, tu peux pas... tu vas rester sur une hypothèse.
Exactement. Et donc, du coup, pour le langage... Pour Quine, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans mon langage, il y a des tas de mots que j'emploie en croyant savoir ce dont il s'agit, jusqu'au jour où quelqu'un va, par l'expérience, me démontrer que mon terme est imprécis, n'est pas en fait celui qui est massivement employé par la communauté et compagnie.
99% des disputes de couple, non
Ça, je ne sais pas.
Des quiproquos partout dans le monde.
Qu'est-ce que j'avais comme ça? C'était une fois, j'avais appris un truc comme ça. Oh mince, par rapport à la mise en page d'un bouquin, j'avais un mot comme ça. Une fois, j'ai appris que c'était pas le mot que je croyais. Mais merde, je ne me souviens plus ce que c'est. Bref, mauvais exemple du coup. Donc, en quoi est-ce que l'indétermination de la traduction de Quine t'a aidé à
dépasser le problème.
Rôle, parce que là, retournons
au jeu de rôle. Mon problème, c'était que j'arrivais pas à écrire quand je l'écrivais, À chaque fois, je me disais, ouais, mais ça correspond pas. J'essaye de l'écrire pour des amis, donc là, en fait, les gens comprendront pas. Là, là, ce que j'ai écrit, en fait, si quelqu'un le prend en main, ça correspondra pas à ce que j'ai en tête ou ça manque d'âme. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais bien, en fait, dans le jeu de rôle, c'était faire du jeu de rôle pour mes amis. Et ou pour les gens que je connaissais, ou alors ça m'amenait à les connaître davantage. Bref, pour des gens proches.
Pratique intime, en fait.
Une pratique très intime du jeu de rôle, au final. Bien que je parle dans les micros. D'ailleurs, quand je suis dans une pratique non intime, j'ai une façon de jouer totalement différente de quand je suis avec mes intimes, où généralement, je mets énormément de... J'ai une façon de jouer extrêmement excessive, en fait, pour pouvoir me protéger, finalement. C'est paradoxal.
Ça, c'est quand quand tu connais pas.
Quand je connais pas. Et quand je suis avec des gens avec lesquels je suis en confiance, hein, ça peut venir assez vite, même avec des gens que je connais pas trop.
Ouais, mais... pas trop bien, oui.
Mais j'ai une façon de jouer
un cercle
très
privé.
Différent.
En fait,
un cercle privé,
voilà, c'est
ouais.
ça. C'est pas tellement un cercle intime, c'est un cercle privé.
Et je me suis rendu compte que c'était lié à ça. Qu'en fait, peu importe ce que je ferais, en fait... Dans le jeu de rôle, il y allait avoir non pas l'indétermination de la traduction, mais l'indétermination de la transmission. Peu importe ce que j'allais écrire, les gens qui me liraient ne seraient pas forcément... je peux pas être sûre qu'ils vont me comprendre, qu'ils vont comprendre ce que je vais écrire, quel que soit ce que je vais faire. Et ça, il va falloir que je l'accepte et que je sois pragmatique. Parce qu'en fait, on dit souvent c'est un idéal, etc. Je pense que la transmission parfaite n'existe pas. Et je pense que c'est prouvé par l'indétermination de la traduction de Quine. Quel que soit ce que tu écriras, tu ne pourras déjà pas être sûr que les mots que tu utilises ont le même sens pour la personne qui va les lire. Donc déjà, de toute façon, on a un problème de transmission. Parce que la seule façon de résoudre ce problème, ce serait que la personne puisse parler après à l'auteur, et qu'ensuite il puisse avoir une relation en se parlant régulièrement, et ça pour être sûr autant que possible que ce qu'on a voulu dire c'était ça. Et même après, on ne pourra jamais être sûr que la personne en fait est totalement le jeu que j'avais en tête. Et du coup je me suis dit fuck, parce qu'en fait j'avais lu plein de jeux de rôle et tout, et en fait j'étais finalement prisonnière de certains déterminismes, au même sens que le cinéma, etc., sur comment on écrit un jeu de rôle. Et du coup, j'ai décidé de balayer tout ça, et je pense que je vais l'écrire en disant « je ».
Ouais.
Parce qu'en fait,
Alors, faut expliquer, par exemple, l'idée d'une règle avec le « je », parce que sinon, on ne comprend pas.
Parce qu'en fait, par exemple, je disais « eh bien, lorsque vous parlez à la table... » Vous pourrez leur expliquer que vous allez ensemble construire des personnages. Eh bien, ça, pour moi, c'est caduc. Déjà, le « vous », je m'adresse à qui ? La personne qui lit ça peut se demander si je m'adresse à elle, si je m'adresse pas à un groupe plus grand de personnes, etc. Et elle peut se demander qu'est-ce que c'est une création de personnages, etc. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, j'ai décidé, en fait, de décrire ce que moi, je fais... De mon espace personnel, de ma propre expérience. Parce qu'en fait, je pense que c'est la seule façon que je puisse transmettre vers moi, finalement, ce que je fais. Et ensuite, de toute façon, je ne peux pas être sûre que vous le comprendrez. Donc, je vais plutôt marquer ce que moi je fais plutôt que vous donner des indices sur ce que vous devez faire. Je vais décrire comment je fais. Et si je décris comment je fais, je ne vois pas pourquoi je devrais parler à l'impersonnel. D'autant qu'en plus, j'ai une pratique personnelle sur ce jeu. Donc, ça n'a pas de sens d'essayer de le rendre impersonnel. Ça veut aussi dire autre chose.
Ça, c'est intéressant. Donc, solution numéro 1 que tu as trouvée pour dépasser ce truc de comment je vais pouvoir transmettre mon jeu, hein, c'est de dire « je ». C'est-à-dire, concrètement, présenter les règles à la première personne du singulier en disant « voilà, je rassemble mes joueurs » ou même « je rassemble mes amis » parce qu'en réalité, c'est plutôt ça. « Je prépare ceci, cela »,« je leur demande de lancer ceci, cela », etc., etc. Donc, c'est intéressant parce que dans les bases de jeux de rôle, on a tout vu là, de ce côté-là. On a vu le « tu » de, par exemple, dans Demiurge ou dans Sens. On a vu le il de la plupart des bases de jeux de rôle, le vous dans certains jeux aussi. Et là, toi, tu te lances dans le je, en fait. Tu vas utiliser le je. Et ouais. Tu trouves ça beaucoup plus en adéquation avec les problématiques que tu as rencontrées, les problèmes, pardon, que tu as rencontrés.
Oui, parce qu'en fait, ça aussi, autre chose, c'est à force, en fait, je finissais par me laisser un peu pourrir par tout ce que j'avais pu lire et entendre. Donc, ce principe que la transmission doit être exhaustive. Il ne faut laisser aucun blanc. Expliquer l'intégralité des choses que tu fais. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Il y a une partie du corps, il y a une partie de ma personnalité, il y a une partie de tout ça qui est impossible. Donc, je vais décrire ce qu'il me semble faire. Et après, aussi bien que ce sera possible, mais je ne vais pas viser l'exhaustivité. Parce que je pense que viser l'exhaustivité, déjà, n'est pas possible pour créer un jeu. Et ensuite, je pense qu'on passerait du coup à côté de ce que je veux essayer de transmettre avec ce jeu, c'est-à-dire une idée de l'intimité avec des gens que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu crées des jeux? Pourquoi moi je crée des jeux pour des gens que j'aime ou que je veux apprendre à connaître? Parce que c'est ça au final le passage. C'est j'ai envie.
Le passage, c'est le nom du jeu de Favie.
Hein. Ouais, c'est quand je fais jouer le passage, c'est que j'ai envie de poser des questions à mes amis ou aux gens que je connais, de provoquer des débats avec eux, j'ai envie d'avoir aussi un moment extrêmement bienveillant avec eux. D'ailleurs, on doit faire un repas avant, etc. Je veux dire. Comment est-ce que tu veux tout décrire? Enfin, c'est juste pas possible dans l'idée que je me fais du jeu. À un moment, ce jeu, il est trop lié à moi, en fait. Donc, soit je fais un crève-cœur et j'essaye de faire un jeu qui ressemble à des jeux que j'ai vus dans des milliers de pages. Soit j'essaye de faire un jeu qui me ressemble et auquel cas, je peux pas faire ça. Parce que de toute façon, il y aura toute une indétermination dans la transmission que du coup, je ne pourrai pas gérer. Donc, autant trouver une façon d'écrire qui va permettre de dépasser ça pour me débloquer.
Alors, exemple concret pour qu'on comprenne bien. Si par exemple, moi j'ai remarqué que avant chaque partie de jeu de rôle, tu viens me faire un bisou. Est-ce que ça veut dire concrètement que dans la base du jeu de rôle, il y aura écrit je fais un bisou à Romaric, puis je me pose, etc.
Mais je t'en fais aussi pendant la partie. Donc,
voilà. Alors, donc est-ce que à un moment donné,
je peux pas vendre Romaric avec le jeu.
Non mais c'est pas le problème.
Le but n'est pas de le vendre. Mais...
mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Ça veut dire que du coup, tu ne décris pas vraiment ta pratique. Tu décris ta pratique, le jeu que tu emploies là, c'est pas vraiment ta pratique à toi.
C'est mon jeu en tant que MJ, pas en tant que Flavie.
Ah, donc tu vois, déjà, tu viens de
mais les
de
deux
dériver,
sont
là,
mais
déjà.
Les deux, mais le problème, c'est que les deux sont extrêmement liés.
Oui, bien sûr.
Alors, je sais bien que ça paraît être des problèmes de fond de tiroir, mais c'est peut-être mon côté extrêmement perfectionniste, mais ça me bloque complètement.
Ah, non, mais c'est pas des problèmes de fond de tiroir, on est en plein dans l'actu du GDR, là.
Je crois qu'on retrouve un peu les préoccupations qu'on a. Bon, le système d'osmateur déjà, et cette question qu'on pose à chaque fois qu'on fait un one shot de est-ce que c'est vraiment représentatif du jeu et de ce que tu as déjà vécu avec ce jeu-là, etc.
Et l'intérêt de l'indétermination de la transmission, c'est que ça pourra avoir l'air représentatif, mais on ne pourra pas en être certain. Et c'est pas grave, faudra être pragmatique, faudra accepter que ça puisse. Qu'on puisse penser que c'est représentatif, mais en fait, ça ne l'est pas. Et en vrai, est-ce que c'est grave?
Oui.
Non, mais en fait, moi, je me pose une question. Grave. Mais moi, je me pose en fait une question. C'est-à-dire que si l'intérêt, c'est la partie. Moi, j'ai envie de faire... Alors, moi, j'ai envie, justement... Pourquoi? Alors, du coup, la question que je me suis posée après, c'est si vraiment je le fais pour mes potes et pour les gens que j'aime, est-ce que c'est utile que je l'écrive?
Ça, c'est une bonne question.
Parce que du coup, je me suis posé la question. Et je me suis dit que ça se trouve, il y avait des gens comme moi qui aimaient les contes, etc. Et que ça leur plairait, en fait, de lire ce jeu. Voilà, pourquoi pas.
Et d'y jouer.
Et oui, il y a des choses dans ce jeu que j'aimerais transmettre. Je trouve que c'est chouette de pouvoir jouer dans cet univers de contes en étant adulte et de poser en même temps des problématiques existentielles liées au monde réaliste. Qui est un truc, moi, qui me touche, voilà, personnellement. Donc, je pense que je vais l'écrire quand même. Mais, ça pose la question de je l'écris pour qui? Et c'est pour ça que, du coup, je passe au jeu, parce que je vais l'écrire pour des gens qui, comme moi, voudront être dans un cercle intime quand ils vont jouer. Parce que je pense que c'est un jeu qui est injouable en convention, par exemple. Et je ne veux pas qu'il soit joué en convention. Ça n'a pas de sens, en fait.
Oui, finalement, ça voudrait dire que tu en as fait quelque chose qui est complètement différent par rapport à l'objectif.
Exactement, d'où le fait qu'il faut que j'évite de l'écrire comme un jeu de rôle normal, en mode impersonnel.
Alors, juste pour pas dans les conventions. Ce que tu veux dire, c'est que ce jeu ne peut pas se jouer dans un cadre public.
Non, il ne peut se jouer. Public. Et puis surtout, il ne peut se jouer qu'avec des gens que tu connais.
Voilà, c'est ça.
Parce que comme du coup, on est amené dans ce jeu à aller vers des problématiques qui posent question. Il faut connaître les gens.
Ah, donc connaître, ça va au-delà même du privé, là.
C'est... Il faut connaître les gens pour pouvoir avoir discuté avec eux des problématiques qui les intéressaient et tout, voir ce qu'ils pensent ou pas, jusqu'où on peut aller, etc. Je pense qu'il faut connaître les gens.
Mais vraiment bien les connaître. Oui. Tu vois, c'est pas.
Je n'ai joué à ce jeu qu'avec des gens avec qui je connaissais bien. À chaque fois, j'ai été bloquée avec des gens que je connaissais moins bien.
Alors justement, tu vois, là, c'est déjà très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut les connaître suffisamment pour pouvoir aborder avec eux des problématiques existentielles qui leur sont propres.
Oui, et parce que moi, je me sens pas d'abord. Il y a certaines thématiques, je me sens pas de les aborder avec des gens que je connais pas assez.
Ouais. Et alors.
Avec qui je ne suis pas à l'aise.
Mais il faut aussi que les gens autour de la table se connaissent.
Oui.
Parce que tu peux pas demander, parce que si toi tu connais individuellement chaque personne, mais que les autres autour de la table ne se connaissent pas entre eux, ça engendre d'autres types de problèmes.
Ouais,
aussi.
Ouais, mais on est d'accord. De toute façon, c'est des groupes d'amis à chaque fois que j'ai réuni d'accord, des gens qui se connaissaient bien. Parce que c'est quelque chose d'intime au final que soulève ce jeu et qui fait que du coup, pour moi, mais globalement, moi, je suis désolée de le dire, mais enfin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je joue dans un cadre beaucoup plus large, j'ai une façon de jouer qui n'est pas la même que quand je suis dans mon cercle intime. Dans mon cercle intime, je vais aller beaucoup plus loin, je vais être beaucoup plus posée, je vais rire beaucoup plus. Lorsque je suis dans l'excessif, c'est que je ne me sens pas forcément à l'aise dans le groupe, en fait. Et généralement, je vais même avoir tendance à essayer de tordre l'histoire, de prendre l'histoire en main et d'essayer de la diriger pour éviter qu'elle aille vers des espaces qui ne me plaisent pas, en fait. Alors que dans l'espace plus privé, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise pour jouer au jeu de rôle.
D'accord, ouais.
Ça ne veut pas dire que je ne peux pas jouer avec des gens que je ne connais pas. C'est juste que je n'ai pas la même méthode de jeu. Je n'ai pas le même jeu, en fait. Mmh. Et du coup, il faut bien le comprendre parce que du coup, moi, avec le passage, je ne pourrais pas y jouer avec n'importe qui. Je ne peux pas le masteriser pratique, à n'importe qui. Ouais, la pratique n'est pas la même, en fait.
D'accord, ouais. Emmanuel, est-ce que tu as des questions à ce stade ?
Je commence à noircir des pages.
Ouais, moi aussi, j'ai monstre questions. Est-ce que tu veux qu'on te lance une batterie de questions, Faye ?
Ouais,
est-ce
ouais,
que tu
carrément, parce qu'en fait, je tiens à préciser aussi que je suis en train de réfléchir à ce truc. Donc, en fait,
C'est en création.
Ouais. J'ai pas du tout une batterie de concepts théoriques pour le soutenir.
Est-ce
là,
que
c'est...
tu as des questions de fond de tiroir, Emmanuel, ou est-ce que tu as des questions générales ?
C'est un peu entre les deux, en fait. Hein. Ouais. C'est déjà...
On fait un par un ? D'abord toi, ensuite moi ? Allez, vas-y, c'est parti.
On ouvre les hostilités. Non, alors, déjà, par rapport à cette question d'exhaustivité, ça veut dire que, quelque part, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, hein,
j'ai une question là-dessus
que tu as décidé de mettre de côté et de « tant pis, je retransmets pas » tout ce qui relève, justement... De ton vécu et qui n'est pas transposable.
Exactement,
c'est-à-dire le fait
par
que
exemple.
Tu joues avec ton mec et que tu as l'habitude de lui faire des bisous.
Pas seulement. C'est, je sais qu'à un moment.
Pas seulement des bisous. On
se... Pas seulement des bisous. Et pas seulement.
Il y a des preuves.
Par exemple, je sais qu'on m'avait dit, parce que du coup, je crée en fait des monstres en rapport avec les problématiques des gens qui vont jouer avec moi. Et on m'avait dit, il faut que t'expliques absolument comment tu crées ça, que tu donnes plein d'exemples, etc. Et bref, qu'il fallait que ce soit exhaustif. Et ben, je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut pas du tout que j'explique en 50 pages comment faire ce truc. Je pense qu'au contraire, il va falloir... Parce que quand je le fais, il y a une certaine intuition. Je pense que je vais aller vers certains personnages de contes ou certains personnages d'un bestiaire plus qu'un autre, mais je suis pas capable de déterminer pourquoi est-ce que, par exemple, je vais prendre un vampire pour parler de quelque chose, comment je vais le transformer. Par contre, il y a des choses qui me semblent importantes. C'est souvent, je transforme ces monstres d'une façon assez mignonne, grotesque, pour que ça puisse être joué. Mais est-ce que je dois pour autant être exhaustive sur un bestiaire que j'avais pourtant commencé à écrire et que ça fait partie des choses qui me bloquent parce que je trouve que c'est totalement limitant ? Mm-hmm. Je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut arrêter de faire des putains de bestiaires.
Donc tu voudrais arriver finalement à retranscrire cette espèce de couleur du jeu sans pour autant avoir besoin de le décrire et
à fond en 50 pages, je pense que je peux le faire en une ou deux bestioles et puis ça va quoi. Je pense qu'à un moment les gens ils sont capables de comprendre en vrai. Et puis, je pense que c'est un jeu, comme il va supposer de l'intime, je pense que les gens, c'est aussi bien s'ils peuvent mettre aussi d'eux-mêmes aussi, en fait, dans les créatures qu'ils vont créer. Parce que je mets beaucoup de moi, en fait, dans les bestioles que je crée. Du coup, c'est quelque part un peu moi qui interroge, finalement, les problématiques de mes amis. Donc, il faut que, bah, si je ne peux pas me mettre moi dans le jeu, en fait, faut aussi que je laisse une part aux gens qui vont les prendre en main de eux-mêmes se mettre aussi dans les bestioles, en fait, tout en leur expliquant comment faire. Mais je pourrais pas, comme on l'avait dit une fois, être avec un flingue en train de dire mais tu vas faire exactement comme moi, putain, c'est juste pas possible, quoi. Par contre, il y aura des règles qui devront suivre pour que ça puisse marcher, mais est-ce que je peux écrire toutes les règles exactes qui permettent de faire ça? Je pense que c'est pas possible.
Non, je pense pas non plus. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que y a plein de choses dans ce que tu dis. C'est extrêmement dense.
Et puis c'est subtil, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire qu'il faut plus. Compliqué. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus faire de règles. Ouais, numéro un.
Fais attention parce que là, ouais, t'es en train de.
Attention,
ça peut être très mal compris.
Et oui, c'est pour ça que je le dis. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus faire de règles. Je ne suis pas en train de dire qu'une base ne peut pas être comprise. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire des règles, mais que il va falloir un certain pragmatisme pour accepter qu'en fait certains concepts ne seront pas, peut-être pas entièrement compris et que ouais. C'est pas grave,
ouais.
Que c'est pas pour ça qu'on peut pas écrire de règles, mais que pour le compenser, c'est pas une raison non plus pour noircir des pages et des pages. Ouais. Et que revenir à un certain idéal finalement de philosophie analytique, c'est-à-dire que une phrase simple
ça, c'est bien.
Qu'on pourra décortiquer vaudra certainement plus au niveau de la compréhension que des cinquantaines de pages pour expliquer ce que je voulais dire. Ce pragmatisme va me permettre en fait de faire ce que Lynch disait. J'ai pas peur de considérer que les gens qui regardent mes films sont intelligents. Je ne vais pas avoir peur de considérer que les gens qui vont lire ce livre vont être intelligents. Je pense qu'ils seront capables de comprendre grosso modo ce que je veux dire, mais de toute façon, j'aurais pas moyen de savoir exactement s'ils ont totalement compris. Mais je pense que, de toute façon, même si je noircis 50 pages, ce sera pas possible non plus. Donc mon but, ça va être de faire quelque chose comme j'aimais en fait en philosophie analytique, quelque chose de beau, de simple, où chaque mot aura finalement un sens important, mais que ça sert à rien de noircir des pages et des pages pour comprendre ça et de donner des milliards d'exemples. Il va falloir accepter que pragmatiquement, ça n'a pas d'intérêt.
Voire même que le écrire et noircir des pages pour expliquer encore et encore un concept, ça va diluer en fait l'essentiel de ton message et ça peut même faire
l'extrême inverse. Ce qui fait qu'on se comprendra encore moins.
Encore moins, oui, tout à fait.
Et puis, de toute façon...
De manière générale, plus on donne de propositions pour définir quelque chose, plus il y a de propositions pour expliquer quelque chose,
plus il y a de mots sur lesquels je ne pourrais pas être sûr que les gens m'ont compris. Donc autant limiter le nombre de mots.
Alors ça c'est vrai, et d'autre part, alors premier élément, je suis d'accord avec toi, deuxième élément, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas sûr de quelle proposition va être la plus importante pour quelqu'un. Alors, dans le milieu de l'image, il y a cette histoire du point d'impact d'une image. Si deux personnes différentes regardent une même image, certains vont voir dans l'image un élément, par exemple la maigreur d'un personnage, alors que d'autres verront dans cette même image un ray de lumière, etc. Ça, je l'ai appris. Enfin, j'ai vu une émission récemment d'un arrêt sur image en fait sur le sujet. J'ai trouvé ça super intéressant sur la couverture du Nouvel Obs suite à Me Too. Bref, je vous invite à vous abonner à Arrêt sur Image. C'est pas cher, 45 € par an, c'est vraiment pas cher. Et c'est une émission géniale, voilà, on s'en lasse pas, c'est super. Daniel Schneiderman, t'es génial, et seulement fais attention à tes cheveux. Emmanuel, t'es d'accord avec moi sur
ouais,
les cheveux de Daniel?
Non, je peux rien dire, t'as vu la tronche des miens, tu vois. Non, par contre, ouais, sur ce côté lecture, ça fait partie des exercices que j'ai fait quelques fois et qu'on a refait, là, ne serait-ce que la semaine dernière, sur une expo, non, arriver à créer un texte, écrire un poème sur une image. Et ouais. Voilà, j'ai bossé avec les œuvres d'une petite nénée qui s'appelle Louison Poisson. On s'est retrouvés avec, donc avec mon compagnon à écrire chacun des textes, des fois sur les mêmes œuvres. Et à se retrouver confrontée et donc et elle aussi bon elle a pas encore tout découvert mais elle a découvert des bouts et c'est complètement hallucinant les disparités et en même temps du coup ce que ça les nouveaux trucs qui vont naître de chaque image et une fois qu'on a entendu les textes etc donc et c'est très fort.
Si une règle est en une proposition, on sait que c'est cette proposition-là qui doit être l'impact. Si une règle s'exprime sur un paragraphe tout entier, voire sur trois pages, eh bien, on ne sait pas quelle page sur les trois va être la plus impactante pour le lecteur. Donc ça, voilà, c'est évidemment, évidemment un point assez essentiel, je pense, de ta démonstration. Ce qui est marrant, c'est que, mais il me semble que c'est des travaux de Barthes, là aussi sur la mort de l'auteur et compagnie, qui évoquent ces sujets.
Peut-être, je ne l'ai pas lu.
Ouais, ok.
J'ai pas réussi encore non plus.
Non, moi non plus. Hein. Ouais. J'avoue avoir lu des articles sur le sujet par la force des choses.
Mais parce que c'est rigolo, parce que quand je parlais du jeu, même avec des amis proches, à chaque fois on me disait « Ah, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça, faut que tu mettes ça. » Et non. Faut pas que je mette l'intégralité de ce qu'ils me disaient. Faut que je mette ce que moi j'utilise pour créer le jeu. Point.
Et alors, en même temps, on se retrouve à revenir un peu sur notre lapin du départ, qui est que si, comment dire, une seule proposition te donne une base, mais je suis presque en train de dessiner un petit carré sur ma feuille. C'est-à-dire que j'ai presque envie de penser que quatre propositions, ça délimite un espace, quoi. Et qu'il faut au moins, enfin voilà, même un triangle, il en faudrait au moins trois pour délimiter un espace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Moins tu donnes de propositions, Flavie. Et plus tu prends le risque qu'on ne comprenne pas ce que signifie Gavagai. C'est l'ensemble des expositions du terme Gavagai chez Quine qui nous permettent quand même de préciser un peu plus le concept.
Peu importe le nombre de propositions, de toute façon, je serais pas sûre. Donc, il va falloir que moi, je mette un nombre. Parce que là, je suis rendue à un nombre de mots. C'est juste absurde, en fait. Moi, je vais tout réécrire, là. Et parce que je trouve ça
alors,
pas
en
clair.
En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le fait que, de toute façon, je ne puisse pas, finalement, atteindre la perfection... Le fait que je sache que je ne puisse pas atteindre la perfection de l'explication fait que du coup, je me prends moins la tête sur la quantité de choses à expliquer et je peux me dire, c'est suffisant pour moi, donc ce sera suffisant pour les autres.
Pas forcément, parce qu'en fait,
j'essaie de
la seule façon ensuite, puisque je reste dans le pragmatisme de Quine, la seule façon ensuite que je vais avoir de savoir si ça a été compris ou pas, c'est de filer ça à quelqu'un qui est proche de moi, mais qui ne m'a pas lu et qui n'a pas joué avec moi, de lui faire lire le bouquin et de lui demander de me le faire jouer.
Et de voir s'il a compris.
Et de voir s'il a compris mon gabagaï.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça répond à une question que je voulais te poser. C'est, dans la transmission, qu'est-ce que tu transmets ? Et là, on voit que le test ultime pour toi, c'est de jouer avec la personne qui a lu ton travail et de voir si, oui ou non, il joue comme toi.
De donc, voir ça veut si bien cette dire... personne va essayer de me comprendre comme moi j'essaye de comprendre les amis à qui je fais jouer.
Très bien, très très bien. Donc, mais ça veut bien dire que dans le fond, ce que tu recherches, c'est à faire en sorte que la personne qui va faire... Enfin, bon, il faut être très clair. Tout d'abord, dans une partie de jeu de rôle, qu'est-ce qu'on transmet ? Bon, il y a deux choses. C'est hyper complexe. Il me faudra un schéma en fait, et là on est à l'oral, donc je vais essayer de découper. D'une part, il y a les règles. Les règles, ce sont les propositions qui sont contenues dans la base du jeu. Et encore une fois, on rappelle que la base, c'est pas forcément un livre. Donc, ce sont les propositions qui sont contenues dans la base du jeu. Les propositions, les images, les illustrations font règle. Une illustration est une règle. Attention, une partie de l'univers, c'est une règle. Trop de rôlistes encore aujourd'hui, j'entends là, les gens là, au fond de la classe, qui pensent que les règles, c'est juste le système mécanique qui permet de gérer les conflits entre les personnages. Non et non. L'univers, c'est les règles. Quand on dit, je reprends l'exemple de ce bon vieux Jérôme Larré, quand on dit que les Amazones n'ont pas de sein car elles doivent pouvoir tirer à l'arc, c'est une règle. Cela sous-entend que si vous jouez une Amazone, elle n'aura pas de sein. Donc même les propositions de l'univers sont des règles. Les règles, c'est tout ce qu'il y a dans la base. Et il ne faut pas confondre ces règles avec le système qui est, lui, ce qui se passe ce soir autour de la table. C'est-à-dire, concrètement, quelles ont été les règles que l'on a appliquées autour de la table ce soir, indépendamment du fait qu'elles soient inscrites ou non dans la base du jeu. Le système, ce sont les règles telles qu'elles s'appliquent maintenant, ici, ce soir, etc., etc. Quand on dit « système does matter », on ne dit pas « règles does matter ».
On dit aussi le système autour de la table, on puisque c'est ce qui a créé la partie.
Exactement. Et les tenants du système does matter veulent dire aussi, bien entendu, que quand quelque chose dysfonctionne au cours d'une partie, il faut regarder le système du jeu, c'est-à-dire les règles telles qu'elles ont été appliquées ici et maintenant, ce soir. Et non pas, évidemment, système does matter, ça veut pas dire, bon, ça dysfonctionne là ce soir, hein, donc je vais aller regarder dans les règles du jeu pourquoi ça dysfonctionne. Non. On commence d'abord par regarder ce qui se passe ici et maintenant, ce soir, la partie elle-même, puis ensuite on regarde si ce système est en adéquation avec les règles telles qu'elles sont écrites dans le jeu. Ça n'a rien à voir, voyez un peu la différence. Donc, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on transmet? J'en reviens à ça. Les règles sont là pour transmettre à un lecteur l'idée d'un système. C'est-à-dire, en gros, on va transmettre en tant qu'auteur, on doit faire en sorte que quand quelqu'un, n'importe qui, va prendre le livre, va prendre la base du jeu. Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'un livre, mais je prends un livre parce que c'est encore ce qui est de plus répandu aujourd'hui. Quand le gars prend le livre, le gars, la fille prend le livre, elle l'ouvre, il l'ouvre, et là, il doit, en lisant les règles, imaginer le système autour de la table. Il doit imaginer la partie type du jeu. Et quand il l'a imaginé, quand il a ça en tête, là, lui-même va pouvoir faire un effort de transmission qui va être le soir où il va vouloir jouer, d'expliquer, à ce moment-là, il devient animateur de la partie, d'accord? Pas forcément MJ, hein, pas forcément joueur, il devient animateur de la partie, c'est-à-dire qu'il va expliquer les règles telles qu'il les a comprises et mettre en place ce qui sera le système de la partie. En sachant que il fait au mieux parce que fait système aussi si, par exemple, un joueur a faim. C'est pas lui qui l'a décidé, c'est pas l'animateur du jeu qui l'a décidé, hein. Pour autant, bah, ça va faire système. Le fait que Flavy est très fin, je peux vous jurer que ça va influencer votre expérience de jeu, hein. Parce que quand elle a faim.
Je suis grave désagréable.
Elle est pas agréable. Donc, et ça, l'animateur de la partie, malheureusement, il n'a pas le contrôle de ça.
Qui plus est, là, on est sur ça. Autre chose qui fait que, du coup, écrire un livre qui proposera la partie parfaite est un idéal, parce que on saute en plus quelqu'un à la base et va expliquer à quelqu'un d'autre, on repasse dans un autre saut d'indétermination, c'est-à-dire qu'il y a une première indétermination. Exactement. De la transmission qui arrive sur la personne qui lit le jeu.
C'est ça.
Et ensuite, on a sur une autre indétermination de transmission sur comment il va le transmettre et comment la personne va le comprendre après. C'est quand ça. il va lui expliquer.
C'est-à-dire que le jeu de rôle, par définition, c'est du téléphone arabe. Au sens, alors je sais pas du tout si cette expression est raciste ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est concrètement ce que dans le langage populaire on appelle du téléphone arabe. C'est-à-dire que A transmet à B, qui va transmettre à C.
Sauf
et
que
ensuite,
là,
C et B tous ensemble,
probablement d'un point de vue pragmatique, il va se passer ce que la base avait prévu, mais on ne peut l'envisager que d'un point de vue pragmatique. On ne peut pas le savoir.
On ne peut pas le savoir, exactement. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis là. On ne peut pas être certain. C'est-à-dire, la certitude est exclue, en fait.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas dire qu'il y ait des parties typiques de quelque chose, parce que dans ces cas-là, on ne fait plus rien. C'est bien ce qu'est dit Quine aussi. Dans ces cas-là, autant ne plus parler, entrer en relation avec des gens. C'est que, à un moment, si on veut pas rester bloqué, sachant que Quine, c'est quand même quelqu'un qui a appris des tonnes de langues. Pas des tonnes, mais bon, bref, je crois qu'il connaissait 5 ou 6 langues, je sais plus, bref, c'est un. Et, il a quand même appris des langues alors qu'il connaissait ce problème de l'indétermination de la traduction. D'un point de vue pragmatique, on ne peut pas savoir, mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Et on va essayer quand même.
C'est pour ça que toi, tu voudrais quand même avoir un regard sur un des meneurs pour vérifier quand même qu'il y ait.
Et ensuite, du coup, avoir ce truc, qu'est-ce qui fait que, si imaginons que ça avait marché, du coup, ben, on pourrait discuter ensemble sur quels sont les éléments qui t'a amené à comprendre bien ce que je voulais dire. Et si ça a pas marché, ben, qu'est-ce qui fait que t'as fait le truc comme ça et quels sont les éléments qui t'ont amené à faire ça comme ça, et regarder ensuite ce que j'ai fait et quelles sont les choses où il y a eu une indétermination de la traduction, pour essayer de trouver ensuite d'autres mots pour essayer d'amenuiser cette indétermination.
Voilà. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que dans ton discours, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a indétermination de la transmission qu'il ne faut pas chercher à transmettre le mieux possible.
Je suis prof. Évidemment que je cherche à transmettre du mieux possible.
Oui, mais Flavie, c'est pas immédiatement compréhensible, ça. Dans ton discours précédent, c'est pas immédiatement compréhensible.
Bah oui, mais il faut se mettre dans le point de vue de Quine. C'est le pragmatisme.
Oui, bien sûr.
Ce n'est pas parce que un truc... C'est pas parce qu'on peut pas être sûr qu'un truc ne soit pas parfait qu'on peut pas essayer de le créer. C'est même important d'essayer de le créer.
Donc, en tout cas... Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas être certaine que, enfin, tu peux pas être certaine que tu vas pouvoir transmettre absolument le système idéal que tu as en tête.
Exactement. Mais et du coup, je ne pense pas non plus que noircir des pages et des pages et faire un livre, écrire un livre de jeu de rôle comme j'ai pu en lire des tonnes. Des tonnes, peut-être pas, mais des bonnes dizaines, va m'aider non plus. Par contre, je pense que réfléchir à ce que je veux transmettre, en me séparant aussi des déterminismes, je me suis déjà séparée de beaucoup de déterminismes en écrivant jeu, mais me séparer du déterminisme de ce que c'est l'écriture d'un jeu, va beaucoup plus m'aider. Voilà, pour pouvoir essayer de transmettre ça. Il va falloir que je réfléchisse à ce que je veux transmettre, plutôt qu'à comment on écrit un jeu.
Emmanuel, tu voulais rebondir ?
Non, juste une fois par rapport au côté prof, c'est vrai que, bon, en plus, moi, je suis prof en lycée pro, donc ce côté-là, il est hyper présent, mais souvent, on dit que plutôt qu'un long discours, il faut une bonne mise en situation. Et c'est là aussi que est un peu le problème, c'est que ce sera encore plus simple pour les gens de prendre en main ton jeu de rôle, s'ils l'ont vécu, que ce qu'à travers un bouquin. Il y a toujours ce problème du biais et du truc qui vaudra jamais un vécu et une
pratique. Il y a en pédagogie, il y a une dame qui s'appelle Margot Linas qui a travaillé sur un sujet qui s'appelle les savoirs transparents, qui est quelque chose de très intéressant et que j'ai vécu aussi. Je pense que ça vient aussi de là, en fait, ce truc de l'indétermination de la traduction. De toute façon, le jour où j'ai lu Quine, ça a changé ma vie. Mais les savoirs transparents, je vais vous l'expliquer quand je l'ai vécu. On chantait, il y a une pie dans le poirier, j'entends la pie qui chante. À ce moment-là, je travaille en campagne, il y a des poiriers pas mal et tout, donc je me pose pas la question. Pour moi, ça me paraît évident, en fait, que les enfants comprennent le mot poirier. Et là, j'ai un petit loulou qui lève la main et qui fait, mais maîtresse, c'est quoi un poirier? Et en fait, parce qu'à un moment, j'avais dit un truc, il s'est dit, ah, elle parle d'un arbre. Et en fait, il avait pas du tout compris ça. C'est ce qu'on appelle le principe des savoirs transparents. Quand vous êtes, par exemple, au lycée, et que vous allez demander à vos élèves de colorier la carte comme au tableau, vous avez en tête, bah là, le rouge, ça veut dire, par exemple, que c'est l'endroit où on a le plus de population. Là, c'est quasiment jaune, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a des élèves qui vont pas être contents parce qu'en fait, ils ont colorié la carte. Et la prof ensuite va dire, bah oui, mais tu l'as pas colorié comme au tableau, du coup, ça correspond pas au truc. Les élèves disent, mais oui, mais j'ai colorié la carte. Mmh. Oui, ce que je veux dire, c'est ça, les savoirs transparence. Et il y a vraiment un lien, je pense, avec cette indétermination de la traduction, notamment dans la règle. Vous allez faire ça comme ça, comme ça, mais on ne peut pas être vraiment sûr que ça a été compris, sauf ensuite en passant.
Excuse-moi, c'est la fameuse blague du trouver X et l'élève qui entoure le X dans l'équation et qui dit
exactement.
Il est là.
Exactement.
Voilà. Mais ça, c'est une règle, c'est pareil. C'est le problème de la règle de Wittgenstein.
Encore, c'est pas parce qu'il y a des savoirs transparents qu'on ne peut plus enseigner. C'est juste qu'il faut avoir conscience qu'il y a ces savoirs transparents pour essayer de combler au maximum en faisant des règles pas implicites mais explicites ce qu'on va vouloir expliquer de faire à l'enfant. Et à l'apprenant. Et là, on retrouve ça, je trouve, dans l'indétermination de la transmission. C'est pas parce qu'on est au courant qu'il y a une indétermination de la transmission qu'on va se dire, oh bah, c'est pas grave, du coup, je le fais comme je veux. Et puis, de toute façon, maintenant, on n'a qu'à dire que c'est plus possible de faire des règles et que voilà. Non! Dans ces cas-là, on est au courant de ça. Et donc, il va falloir essayer, du coup, de faire des règles explicites, claires et simples. Et c'est compliqué.
Alors du coup, pour le côté simple, moi j'aurais plutôt l'intuition de dire qu'il faut rajouter des précisions, donc rajouter des mots.
Oui, mais pas trop. Justement, c'est ça le truc. C'est là encore, on retrouve le juste milieu d'Aristote, tu vois. C'est que Flavie dit, il faut pas en faire trop, il faut pas en faire trop peu, il faut en faire assez pour soi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, le côté
oui.
pour soi.
Et puis moi, de ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire que quand je donne trop d'exemples en classe, hein, je suis désolée, je parle parce que évidemment, moi, je fais forcément un lien avec mon métier. Quand je donne trop d'exemples, c'est là où ils se plantent. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ils savent plus. En fait, il y a trop d'exemples, donc en fait, ils me mélangent tout, et c'est là où j'ai les plus mauvais résultats. Si je ne donne qu'un seul exemple, c'est là où ça fonctionne. Ouais, du coup, il faut avoir réfléchi. Il faut avoir réfléchi à l'exemple qu'on va donner. Et c'est pour ça qu'en début de carrière, je me disais, oh, ça va être à la bonne again, je vais leur expliquer. Et je me plantais à chaque fois. Maintenant, la majorité de mon travail de prof ne consiste pas à, entre guillemets, préparer ce que je vais leur donner, mais plutôt à préparer les consignes.
Manu, tu voulais ajouter quelque chose ? Parce que t'as plein de questions, en fait.
Ouais, plein de trucs.
Si c'est autre chose, est-ce que je peux ajouter mon
élément ? Ouais, vas-y.
C'est juste, moi, ça me fait penser à Wishmaster. Et c'est pas une blague. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film. Non, mais ce film est très intéressant. En réalité, moi, ce qui est ouf, c'est que je l'ai vu comme un film d'horreur quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais au lycée, je crois bien. Donc, Wishmaster, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un génie, à la génie d'Aladin, tu vois, qui exauce des vœux. Sauf que.
Et c'est pas des vœux ratatouille.
Non, c'est pas des vœux ratatouille comme dans Avez-vous déjà vu ? Non, c'est un génie qui est foncièrement malveillant. Et donc, du coup, quand vous lui demandez un vœu, il va vous exaucer le vœu, mais tel que lui, il l'a compris. Par exemple, il y en a une qui dit je veux être belle.
Je veux la jeunesse éternelle.
Je veux la jeunesse éternelle. Il dit exaucer et il la transforme en statue.
Dans une vitrine de magasin.
Voilà. Ouais, et donc, en fait, ce film ne m'a pas du tout marqué pour, la réalisation est pourrie. Moi, il me fait penser à un méchant de Buffy. Sauf qu'il n'y a pas le scénario de Joss Whedon derrière. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, du coup, parce que Joss Whedon est très fort, mais les mannequins et tous ces monstres sont un peu ridicules. Bref. Mais j'aime beaucoup Buffy.
Alors, je veux pas le carton pâte.
Parce que sinon, on va me faire dire des choses que j'ai pas dit. Bref. Donc, toujours est-il que ce film m'a vraiment beaucoup marqué par sa proposition métaphysique. Il y a quelque chose derrière qui touche justement à l'indétermination de la transmission. Est-ce que les autres me comprennent ou pas? Et pourquoi ils me comprennent? Et qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce qu'ils comprennent?
Tu sais que c'est depuis que j'ai vu ce film que je fais gaffe quand je fais un souhait en soufflant mes bougies et tout pour être vraiment sûr qu'on va pas me faire de trucs que je veux pas qu'on me fasse.
Mais justement, Flavie, justement, on est dans le cadre, exactement dans le cadre de cette conversation. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de dire suffisamment de faire suffisamment de propositions pour être sûr, non pas sûr et certain, mais sûr à 90%, tu vois, la quadrature du cercle que nous fait Emmanuel depuis tout à l'heure sur sa page, hein, qui ressemble à une croissance d'ailleurs.
Elle est faite, la croissance.
C'est bon, ça va mieux là. Ah, on sent mieux là. Donc, tu vois, mais c'est d'être sûr que l'autre va nous comprendre. Mais, et c'est ça qui est très intéressant dans Witchmaster, le problème n'est pas qu'il ne nous comprend pas. Le problème est qu'il ne veut pas nous comprendre. Et donc, en fait, et là aussi, il y a un effort à faire dans la transmission pour que l'autre veuille nous comprendre, soit bienveillant. Si on le met dans des dispositions, je veux dire, si on le traite dès le début de connard de Roro, c'est-à-dire Rolis Troutard, ça va pas le mettre dans une situation de bienveillance vis-à-vis des règles, et donc il va chercher à les contester par la suite.
Ouais, après, à partir du moment où quelqu'un prend un jeu en main, à moins que ce soit un connard de podcasteur de la cellule qui a envie de détruire un jeu.
Voilà, ouais, par exemple.
Normalement, le joueur et le meneur sont quand même assez bienveillants vis-à-vis du, on peut
tout
compter là-dessus.
Tout à fait. Et un élément qui est assez hallucinant, mais qui est vrai, c'est que aujourd'hui, dans notre système marchand, ce qui garantit la bienveillance le mieux et le plus, la bienveillance des gens à l'égard des règles, c'est qu'ils les aient payés. C'est ça qui est fou. Quand ils ne connaissent pas la personne. Ah, mais alors ça, mais bien sûr que si, même tu lèves les yeux.
Ce côté, quand on t'offre un CD, tu l'écouteras moins facilement que si tu lui as laissé un euro.
Sauf si c'est un ami qui te l'offre.
Non, mais c'est vrai,
c'est pour ça que je te disais, quand tu ne connais pas. Hein, et, et par contre, quand c'est quel, évidemment, sinon, ce qui va compter le plus, c'est la personne qui te l'a donné, qui te l'a proposé, qui te l'a conseillé, qui te l'a offert, etc. Mais sur la base d'un truc, ça va être soit la marque la plus connue, donc il va y avoir aussi l'image de marque, etc., etc., qui va, en gros, il y a des dynamiques de marketing là-dedans, en fait. Comment faire en sorte que son lecteur, il ait de la bienveillance? Là, du coup, on vire de la transmission vers l'accessibilité,
oui,
tu vois.
Mais, moi, je vais rester dans la transmission.
Oui, mais.
Parce qu'en fait, ça sous-entend aussi quelque chose. Tout ce que j'ai dit, ça veut aussi dire que la personne qui écrit des règles prend un risque. Quand elle écrit, elle prend un risque. C'est pour ça que c'est très difficile d'écrire. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que il y a des gens, en fait, quand on comprend pas leur jeu, ils sont en colère parce qu'ils ont fait... prendre un risque, en fait, ça fait peur, en fait. Et je pense aussi que ça fait qu'on peut avoir aussi envie de dire « Oh, mais je l'ai écrit, mais seulement pour moi !» ou parce que ça fait peur, en fait, d'écrire des règles et de risquer de ne pas être compris. Parce que le principe même de l'être humain, c'est d'avoir envie. Enfin, Aristote, l'homme est un animal politique. C'est-à-dire que c'est, l'homme est quelqu'un qui veut être, qui veut entrer dans la cité, qui veut faire partie d'un groupe, etc. Quand on écrit quelque chose, finalement, on essaye d'entrer en relation avec des gens qui vont nous lire, en fait. On essaye d'établir finalement quelque chose, là. Et le fait, cette indétermination de la traduction, moi, elle me permet de prendre du large, en fait, de lâcher du lest sur ça, c'est-à-dire de comprendre que, en fait, c'est pas grave, en fait. Ça fait partie du jeu de risquer de pas être compris. Et finalement, c'est un risque dans ce cadre-là que je suis capable d'accepter, à condition que, du coup, ce jeu me ressemble.
Du coup, c'est aussi Emmanuel. Ce qui peut expliquer, et je le dis avec beaucoup d'amour, qu'on puisse voir autant de films, de livres ou de jeux de rôle qui correspondent à des trucs 100 fois rebattus, parce que quelque part, l'auteur sait que la proposition qu'il va faire au lecteur ou au joueur, c'est des choses qu'ils veulent vivre, puisqu'ils apprécient déjà de les vivre, quoi. Donc,
et puis surtout, on
les laisse dans la même lignée, et du coup, ils y seront.
Dans une culture commune. Donc, en fait, il y a moins de chances qu'on ne se comprenne pas sur certains mots. On va amenuiser l'indétermination de la transmission. Mais c'est un peu la facilité, parce que du coup, ça veut dire que si on se base là-dessus, c'est pour ça que je parle de prendre des risques. Si on se base là-dessus, on continue à faire du Cthulhu pendant des années et on cherche jamais à faire de nouvelles histoires. C'est ce que font, entre guillemets, actuellement, par exemple, Disney ou tout le système hollywoodien, sortant toujours des remixes.
Des suites, des reprises.
Des suites, etc., de la nostalgie, etc. Aussi parce qu'on limite l'indétermination de la transmission et que du coup, on risque moins de ne pas être compris. C'est une prise de risque que d'accepter finalement de créer quelque chose de nouveau. Et le fait de comprendre ça lui donne encore plus de valeur finalement. Et il faut bien comprendre que d'un point de vue pragmatique, je reviens à mon cher Quine, c'est important de continuer. Parce que sinon, il n'y aura plus de nouveaux concepts et plus de nouvelles langues. Vous voyez ce que je veux dire?
Et
les choses s'appauvriront. Finalement, cette indétermination de la traduction, c'est la richesse au final de l'être humain. C'est la richesse de la langue, c'est la richesse des mots.
C'est aussi ce petit côté paradoxal de un exemple à la con, Doctor Who par exemple, où il y a toujours ce petit moment où le public dit « Ah ben non, mais normalement c'est pas censé être comme ça ». Parce que quelque part, se retrouver sorti de sa, on pourrait dire zone de confort, mais du coup, ça en deviendrait un petit peu condescendant.
Sa routine.
Mais sorti de ce qu'on avait
du
déjà établi.
De compréhension,
ouais,
qu'on
de l'espèce
clair.
De contrat qu'on avait établi avec le créateur. Et de se dire, attends, là, du coup, je me retrouve en incompréhension, alors que je pensais qu'on avait, notre système de transmission, il était bon, quoi. Et du coup, cette espèce de distance qui se crée.
Et c'est là où il est fort, Quine, parce que en reliant ça au pragmatisme, il évite finalement l'écueil qu'on lui reprochait. En disant, du coup, tu tombes dans le relativisme, dans ces cas-là, on ne fait plus rien. Et là, il
on
permet.
Plus rien.
On ne transmet plus,
voilà.
On
imaginons,
ne traduit
appliquer,
plus rien.
Appliquer
voilà. Appliquer à la
dit,
transmission, on ne transmet
c'est...
plus rien, ou dans ces cas-là, on dit que plus rien n'est transmissible. Ouais. Là, d'un point de vue pragmatique, il est important de dire que oui, il faut transmettre. Parce que sinon, on ne fait plus rien. Et oui, il faut essayer de transmettre du mieux possible.
Ouais. Mais c'est, tu vois, c'est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas un abandon de l'espoir. On garde espoir de pouvoir un jour vivre une partie du passage telle que Flavie l'aurait souhaité. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, et ce que je trouve beau dans ta, dans ta, dans ta vision, c'est que ça recoupe avec cette idée que l'auteur, enfin, d'un jeu, ou en tout cas celui qui le mettait en scène, parce que là, en l'occurrence, tu es l'autrice du jeu, et c'est aussi toi qui le mets en scène, tu vois, quand on joue ensemble. Si un jour quelqu'un prend ce livre et se sent aussi intime de ce livre que tu pouvais l'être au moment où tu l'as écrit, eh bien, Flavie sera immortelle. Il y a une partie d'elle qui deviendra, qui sera reprise et qui renaîtra au moment où la personne rejouera.
T'imagines, dans 100 ans, on retrouve ton livre. Je sais pas si c'est Flavie ou si ce sera finalement cette idée que j'avais de la partie.
Cette partie de Flavie. Et ça, c'est, donc ça veut dire que ça, ça recoupe aussi cette idée de l'immortalité, de l'immortalisation, d'une certaine vision d'un auteur, d'une certaine partie d'un auteur.
Alors, ça, je trouve ça assez séduisant. En fait, la raison pour laquelle, parce que moi, en fait, depuis que j'ai eu des, plus jeune, oui, j'ai dû avoir cette idée-là d'immortalité depuis que j'ai eu des enfants, je m'en fous, en fait. Mais, par contre, j'aime la façon dont je joue avec mes amis et dont ce jeu m'a permis jusqu'à présent d'ouvrir des discussions, de découvrir des choses sur eux, et en fait, c'est assez riche, en fait. Et j'ai envie de donner ça à des gens qui pourraient avoir envie de vivre ça, parce que moi, ça m'a plu. Donc si ça m'a plu, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont comme moi à qui ça pourrait plaire.
Mais là, tu vois, c'est pareil. Dans l'intention que tu as derrière le jeu, on le sent bien. Le but n'est pas de vendre.
Oui.
Mais c'est hyper important. Le but ici n'est pas de vendre. Le but n'est pas que tout le monde te comprenne et que tout le monde... Parce que, comme ça, parce que plus, forcément, si tout le monde nous comprend, tout le monde peut nous acheter. Et si tout le monde nous achète, c'est mieux pour l'industrie. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ici, c'est vraiment le but, c'est de transmettre une pratique, ta pratique à toi, très personnelle, très intime, privée, sans attendre un aspect industriel de la pratique.
Ah, de toute façon, ce que je vais transmettre à partir du moment où je dis que ce n'est pas jouable en convention et c'est jouable qu'avec des gens dont tu es proche, voilà, que tu connais, à partir de là, voilà, c'est clair, hein, je le fais pas pour... le but n'est pas de créer quelque chose qui va pouvoir être joué par tout le monde. Le but, c'est de toucher des gens qui, comme moi, peuvent avoir envie de cette pratique-là.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et du coup, ce que je me demande, mais je me le demande un peu depuis le début, est-ce que ce que tu veux transmettre avec ton jeu, c'est vraiment un vécu de partie, ou est-ce que c'est un vécu de vie, et notamment avec tout ce que tu disais des relations? Est-ce que ce que les gens vont, tu voudrais que les gens puissent imaginer en le lisant et en le jouant, c'est pas directement ce vécu, ta vie à toi et les liens que t'as à tes proches?
Non, je crois que ce que j'ai envie de faire, parce que, en fait, j'ai des théories actuellement sur le monde, sur le fait de pourquoi il va pas bien, c'est parce que je pense qu'il est dépersonnalisé. Je sais pas si ce mot existe, je m'en fous.
Il est très clair. On le rentre dans le dico direct. Voilà. J'appelle l'académie.
Voilà. J'en ai aucune idée. Tant mieux. Je pense qu'il faut tout remettre au niveau local. Mm-hmm. Et je pense que la façon
communard.
Ouais, je t'emmerde, c'est vrai. Et je pense que à partir de là, en fait, la façon de jouer, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça. C'est le fait de ravoir des relations autour d'une table qui puissent être vraies. C'est pas parce qu'on est en jeu de rôle qu'on va pas pouvoir parler de nous-mêmes. Et je pense que c'est même une façon de l'explorer vraiment bien avec ses amis, avec les gens qu'on aime, en fait. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est le fait de rentrer en contact avec des gens et de se rendre compte. Alors, ça, c'est à terme, j'ai envie, parce que ce jeu, il me booste à chaque fois que j'y joue, parce que j'adore essayer de comprendre les gens autour de moi, parce que quand j'en sors, j'ai l'impression d'avoir approfondi mes relations, et parce que ça me montre aussi, et ça, j'essaye de montrer aussi quand on joue à mes amis qu'en fait, ils sont des héros dans la vraie vie, qui sont déjà fantastiques dans la vraie vie, parce que très souvent, dès qu'on quitte en fait la partie, on en reparle, et en fait, ce que j'essaye de leur montrer, en fait, c'est que c'est eux les héros qui m'intéressaient et pas du tout leurs personnages. Et en fait, c'est ça que je veux faire. D'où le fait que ça n'a pas de sens ce que je veux faire à un gros point de vue. Enfin, ce que je veux faire, c'est le niveau local, quoi. C'est le fait que vous êtes des héros, quand vous plantez des carottes dans votre jardin, vous êtes super, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être Chris Hemsworth en gros bodybuildé dans un super avion qui va aller détruire Thanos pour pouvoir être un super héros, quoi. Vous en êtes dans la vraie vie. Mais sauf qu'on l'a oublié parce qu'on nous vend tellement de trucs dans la publicité et tout, qu'en fait, on a oublié qu'on était des gens super parce que c'est important qu'on nous déprime, en fait, pour que vous puissiez acheter des trucs. Mmh. Et moi, ce que je veux dire avec ce jeu, c'est vous n'avez pas besoin de ça. Et vous êtes super déjà avec les relations que vous avez. Donc
le jeu, la proposition du jeu et cette façon de le transmettre ont l'air en adéquation en tout cas. Mais on jugera sur pièce. Hein,
bah oui.
Là, on n'est pas dans le tout de suite dans le passage. On parle de transmission ce soir.
Mais est-ce que je répondais à la question de.
On voit bien en tout cas que le jeu est en adéquation avec cette thématique. Enfin, en tout cas, ce que tu as prévu pour le jeu est en adéquation avec cette thématique globale.
Bah, du coup, presque en termes d'accessibilité, ça veut dire pour écrire un truc comme ça, il faudrait plutôt aller choper, je sais pas, ton électrocardiogramme, une espèce d'empreinte de chaleur locale, des liens que tu as avec les gens.
Pour le transmettre au niveau de l'accessibilité, je me suis même posé la question des cartes postales que j'avais trouvées super de Christophe Buckley.
Christophe Buckley, Guillaume Buckley.
Et de
Sylvie Guillaume Buckley. Voilà.
Oui, donc voilà, en termes d'accessibilité, j'ai pas encore. J'aimerais bien que ce soit simple. J'aimerais bien. Cette idée de carte postale, depuis que j'ai vu leur jeu, juste, elle me. Je l'ai toujours été tellement belle que depuis que j'ai choisi de faire un peu avec le jeu, je me demande même si je vais pas faire ça, en fait. Mais bon. Ça, ce sera une autre histoire.
Là, des photographies, peut-être, plutôt pour le passage. En plus, avec les photos, tu peux triper, imaginer.
Ouais,
réel.
C'est moi, de toute façon, qui ferai les illustrations.
D'accord.
Donc, voilà, à voir après. Mais, du coup, là, il faut que je réécrive tout. Mais, en même temps, ce ne sera pas la première fois. Hein. J'ai envie de dire... C'est... Mais bon, là, je crois que j'ai un système qui se tient. Ça doit être faisable. Voilà.
Alors, en tout cas, moi, il y a une première. J'ai plein de réflexions à faire sur cette histoire de transmission. La première, c'est que on pourrait te rétorquer que c'est une solution de facilité, un peu.
Et en quoi c'est grave ?
Ah ben justement, j'attends que tu me donnes ta réponse.
Facilité et simplicité. La simplicité en science, quelque chose qui est simple est beau. Et quelque chose qui est simple ne veut pas dire que il n'est pas bien pensé. La solution de facilité, il y a un aspect un petit peu, une connotation négative derrière qui fait qu'en gros, tu vas écrire ça comme ça pour que ce soit fait. Ensuite, voilà quoi. Attention, moi je parle de simplicité. Alors voilà, la simplicité des fois est beaucoup plus difficile à obtenir que de la facilité. La simplicité est beaucoup plus difficile à obtenir naturellement. Non, c'est
attends,
ce que disait
Quai. Enfin, on pourrait te répondre tout simplement, ouais, bon, alors voilà quoi. Elle fait un jeu pour ses potes. Les critiques vont être bonnes, hein, c'est ses potes. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça, la facilité.
C'est un jeu pour entrer en relation avec ses amis. Des vraies relations. Ouais. Et pour approfondir la relation. Je pense pas que ce soit un truc facile. Je pense même que c'est le nerf de la guerre. Trop souvent, et je crois que c'était un article que j'ai lu récemment qui disait que quand on vieillissait, les relations en fait qu'on nouait n'étaient pas aussi, avaient tendance à rester superficielles par rapport à quand on était plus jeune où on avait vraiment beaucoup de temps finalement du quotidien pour approfondir ça. Et je pense que c'est même un truc important à faire quand on est adulte en fait, parce que les gens qu'on rencontre finalement, avec qui on pourrait avoir des vraies relations, dont on se sent proche, on n'a pas forcément le temps avec tout ce qu'on vit, etc., pour pouvoir aller plus loin avec eux. Et créer, en fait...
Glander together, ce sera peut-être le prochain jeu de...
c'est très difficile de dire, bon, bah, on va se faire une soirée, on va parler de soi. C'est bien un sûr. Peu compliqué, alors que si on fait un jeu, je pense que c'est plus facile.
C'est un peu le propos, je trouve que ce dont tu es en train de parler là, c'est aussi un peu le propos du jeu de Gaël Sacré, un Pit Together. C'est pour ça que je me permets cette petite...
Oui, mais tu as bien.
Très bien, je pense que tu réponds très très bien. Enfin, à mon avis, t'as répondu à cette...
20 sur 20.
Cette critique facile.
C'est parce que je suis une saleté de communard.
Non, mais il faut y répondre, parce que c'est vrai que sur le papier... Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça aussi, cette histoire de facilité? Moi, je pense que c'est beaucoup plus facile... Alors, déjà, petit 1, quand on a rencontré Christophe, souviens-toi ce qu'il nous a dit. On ne discute pas avant d'avoir joué ensemble. Pas de discussion théorique, parce qu'on voulait tout de suite le challenger sur plein de trucs. On avait plein de questions à lui poser. Il nous a dit non. Tout le monde ferme sa gueule. On joue ensemble et on pourra discuter de la partie. Et on verra après. D'où One Shot d'ailleurs. D'où Playtest. D'où toutes ces émissions. C'est-à-dire, ça, c'est du Buckley Guillaume dans le texte. Hein. Donc, alors, pourquoi? Parce qu'en fait, pour. Bah, déjà. Il y a transmettre un système et puis il y a vivre un système. quand on fait une partie, on joue là tous les trois, bah, on va faire une partie ensemble, on va faire un système ensemble. On va faire système tout ensemble. C'est excellent pour apprendre et comprendre le système. C'est encore mieux que de le lire dans un livre. Tu vois ce que je veux dire ? On le vit ensemble, on vit le maelstrom ensemble. Donc ça, c'est un premier élément. Et je pense que c'est ce qui explique la transmission du jeu de rôle classique. La transmission du jeu de rôle traditionnel. On parle du jeu de rôle traditionnel au sens où il est une tradition. Pourquoi il est une tradition ? Parce que justement, beaucoup de gens, pour apprendre à jouer au jeu de rôle, n'ont pas appris dans les livres. Ils ont appris en jouant avec leurs potes. Et la première partie qu'ils ont faite, autrement dit, le premier système qu'ils ont croisé, est devenu leur système par défaut, est devenu pour eux ce qu'était le jeu de rôle, leur jeu de rôle, mon jeu de rôle, ma pratique du jeu de rôle, etc. D'où le jeu de rôle traditionnel qui se transmet comme ça. Parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre un système à travers l'expérimentation du dit système plutôt que de devoir en écrire les règles dans un livre. Donc, quand je dis à Flavie « faire jouer à mon jeu, c'est la seule manière de l'apprendre », ça, ce serait une solution de facilité. Mais ce n'est pas ce que dit Flavie. Là, Flavie a dit « je veux, si je te comprends bien, je veux écrire les règles du mieux possible ». Sans me mettre une pression extraordinaire. Je ne peux pas être certaine que mon jeu soit mal compris. Donc, je l'écris du mieux que je peux, qu'il me satisfasse d'abord, advienne que pourra. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu la conclusion de ce podcast.
Oui, parce qu'à un moment, je m'étais dit, du coup, est-ce que je l'écris ? Est-ce que du coup, je peux pas juste le transmettre à mes potes ? Et c'est une connerie. C'est important que je l'écrive, même pour moi. Parce qu'en fait,
ça,
quand
ce serait la solution de facilité.
Parce que quand il sera écrit, eh ben, en fait, ce sera facile pour moi, encore plus facile pour moi de le faire jouer.
Solution de facilité, c'est dire, j'ai un super jeu, je l'écrirai jamais. Et je voulais. Par contre, vous pouvez y jouer avec moi. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je l'écrirai jamais. Ça, pour moi, c'est une solution de facilité. Sauf, bien entendu, si ça fait partie du propos du jeu et compagnie. Attention, ça peut être un travail artistique à part entière que de faire ça, bien entendu. Mais voilà, pour moi, ce serait ça la solution de facilité. Là, non, c'est ce que tu dis, c'est juste, voilà, faut pas craindre. Mais dis-moi, Flavie, qui t'a mis cette pression incroyable ? J'espère que ce ne sont pas ces podcasts, quand même.
Bah non, justement.
Eh ben, j'en suis pas certain, moi.
Non, justement, non. En fait,
je me pose la question. Je me pose la question parce que, en fait, si on y réfléchit bien, c'est en fait le fait de se contraindre sur les règles à tel point d'être sûr, etc., que la partie qu'on va jouer, c'est celle que l'auteur a voulu. Ça porte un nom dans les théories rôlistes populaires. Ça s'appelle la tyrannie de l'auteur.
Alors, bon, on va être très clair. C'est pas ça qui m'a mis la pression. Parce que la tyrannie de l'auteur, je l'ai sur la tyrannie de la transmission tous les jours à mon boulot. Je voulais pas répondre, mais en gros, c'est le fait d'avoir eu trop de discussions dessus avec trop de gens différents qui ne connaissaient pas mon travail. D'où l'indétermination de la transmission. En fait, ces gens n'ont pas compris ce que je voulais faire avec mon jeu. Ils m'ont tous donné plein de conseils sans savoir ce que je voulais faire. Des fois même sans que je veuille des conseils.
C'est pour ça, tu vois, que nous... Dans les podcasts de la cellule, on veut que l'auteur nous dise ce qu'il veut transmettre. C'est pour ça qu'on essaye le plus possible de jouer avec lui.
Et chaque personne a des idées bien différentes de ce que doit être un jeu de rôle en fonction aussi de tout ce qu'il a lu. Et du coup, à chaque fois, ils me donnaient leur idée du jeu de rôle parfait et pas ce que moi, je voulais faire de mon jeu.
C'est pour ça aussi qu'on a cette règle essentielle quand on écoute les retours de dire « Vous avez le droit de parler, mais en tant qu'auteur, j'ai le droit de ne pas vous écouter ».
Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de détruire ce déterminisme de l'écriture du jeu. Parce qu'en fait, il y a plein de règles tacites sur qu'est-ce que c'est comment on doit écrire un jeu, qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, etc. Dont on ne se rend même plus compte. Et je pense qu'en fait, je décide de dire fuck à ces règles et d'écrire ce jeu comme j'en avais envie.
J'entends vraiment dans ton discours aussi une mais compréhension complète du sens des podcasts de la cellule et des podcasts. Mais si, mais bien sûr que si.
C'est-à-dire
que les podcasts de la cellule, dans leur intégralité, c'est-à-dire les one-shots, les playtests, transmettent l'idée et font croire aux gens qu'il existerait une recette parfaite pour transmettre la partie d'un auteur. Et que l'auteur, Romaric Briand, Fabien Ilvine, Frédéric Sintès, disposerait de recettes sacrées, comment dire, de théories solides qui leur permettraient, laisse-moi finir, qui leur permettraient d'imposer systématiquement la partie qu'ils ont en tête autour de la table, ici et maintenant ce soir. Autrement dit, qu'il existerait des théories qui permettent très facilement de passer de la règle au système et des théories qui seraient infaillibles, etc., etc. Et c'est, je suis désolé, Emmanuel, vous pouvez faire les grimaces que vous voulez, mais quand les gens parlent de la tyrannie de l'auteur au sens où on n'a pas le droit de faire une partie en dehors du cadre voulu par l'auteur, c'est exactement ce qu'ils pensent. C'est-à-dire que nous sommes des auteurs pour qui système does matter, ça veut dire mes règles does matter. Ça veut dire les règles que j'ai écrites dans ma base does matter et vous devez les respecter. Quoi qu'il vous en coûte, vous devez les respecter. Ça, c'est une façon d'interpréter notre travail. Je suis désolé, Fly, que Emmanuel, que vous le vouliez ou non, c'est une façon d'interpréter notre travail qui est fausse, bien entendu, qui n'est pas la bonne façon de l'interpréter, mais qui existe.
Alors moi, je vais même aller plus loin. Je vais même dire, en fait, au-delà même de ce que j'ai dit, le fait que tout le monde me donnait des conseils et tout, il y a une raison, en fait, si tout le monde m'a donné des conseils sur ce jeu, même quand j'en demandais pas. C'est la représentation du courant indé dans les esprits.
Ah, mais ça, c'est très important.
C'est-à-dire que, comme ça va être un jeu indépendant, parce que j'ai pas du tout envie de me faire éditer, du coup, il y a cette idée que quand tu vas sortir un jeu indépendant, quelque part, t'es représentatif du courant indépendant. Et donc, il faut surtout pas que tu sortes une merde, parce que sinon, en fait, tu vas justifier le fait que les, entre guillemets, pros valent mieux que nous. Donc, en fait, quand tu parles d'un jeu, etc., il y a plein de gens qui te tombent dessus en disant « Surtout, faut que tu fasses ça, surtout, faut que tu fasses ça, surtout, faut que tu fasses ça. » Mais fuck ! Eux, ils se sont jamais posé la question, les pros, de savoir ce qu'ils devaient faire ou pas. Ils avaient la façon dont ils faisaient leur truc habituellement, et puis voilà, quoi. C'était les auteurs qui souvent se posaient des questions, ils étaient briqués. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est cette pression qu'on nous met quand on est indépendant, genre, bah du coup maintenant tu représentes ce courant. Et ça m'a bloqué.
Alors que précisément, c'est les censé indépendants donner de la liberté. Tout l'inverse. C'est-à-dire que théoriquement, si on écoute tous les podcasts de la cellule dans lesquels nous intervenons, systématiquement, que ce soit Fabien ou moi, parce que Frédéric intervient moins souvent, mais quand il intervient, c'est pareil. On dit systématiquement, au contraire, que le but de l'indépendance, c'est d'explorer un maximum et dans un maximum de directions différentes. Donc, c'est tout l'inverse de ce que tu es en train de dire là,
Fabien. Oui, mais je sais bien, mais c'est comme ça que je l'ai...
C'est tout l'inverse, c'est justement... Mais ce qui est marrant, c'est que tu le vives comme ça. C'est ça qui est très intéressant.
Mais de toute façon... Alors... Il y a des raisons si je supporte pas la censure. Il y a des raisons si dans mon boulot je supporte pas quand on me met des liens ou des règles ou des trucs. Je ne supporte pas ne pas être entièrement, totalement libre. Et le fait qu'on, voilà, qu'on puisse me dire attention, ah, et tu vas représenter quelque chose, juste, moi je peux pas. Moi je peux pas. Moi il y a quelque chose en moi qui crie, ah, des chaînes, ah, au secours, juste, c'est pas possible, quoi. Là, le fait d'avoir réfléchi à tout ça, moi, me permet de dire, hé, je m'en fous, fuck, si je te l'écris en vert, j'ai le droit, je m'en fous, quoi. Enfin,
mais ce qui est
j'ai
très
besoin d'une totale liberté.
Je trouve que ce qui te bloquait dans cette histoire, c'est l'idée qu'il y aurait des règles parfaites. C'est la perfection qui te bloquait. C'est-à-dire qu'il y aurait le Saint Graal des règles parfaites. Règles parfaites,
pas des
entendues
règles parfaites,
comme...
mais qu'il faudrait viser... Enfin, qu'en gros, il pourrait y avoir une transmission parfaite.
Voilà, c'est ça. Qu'il pourrait y avoir une transmission... Mais
impossible.
Personne le défend. Et ce qui est fou, c'est de voir que toi, ça t'est bloqué pour faire des jeux, mais que ça bloque des tas d'auditeurs de la cellule. C'est ça, moi, qui me fait halluciner. C'est-à-dire que c'est parce qu'on décortique des jeux dans des émissions one-shot et playtest, etc., qu'on dit qu'il y a des jeux géniaux et compagnie, ça donne l'impression ça met la pression à des auteurs. Ils se disent, mais du coup, il faut que mes règles elles soient parfaites pour convaincre, tu vois, pour etc., etc. Non, ce ne sont pas les règles qui doivent être parfaites. C'est le système. Et le système, c'est quoi? C'est une exemplification des règles à un moment donné uniquement. Ça veut dire que ce qu'on juge dans One Shot, ce ne sont pas des jeux. C'est un système tel qu'il a été mis en place ce soir, ici et maintenant. Et c'est ce qui nous a fait nous prendre des tas de shitstorms. Mais ça, il nous en a fallu des podcasts pour le comprendre. Néanmoins, comme tu le disais, Flavie, les podcasts du passé aujourd'hui, à mon avis, transmettent cette peur de l'incompréhension, de la règle, etc. Tu vois le point, Fly ? Donc je pense que c'est important d'en parler là, parce que justement... C'est
pas une raison pour dire qu'on peut pas transmettre de jeu.
Voilà, c'est ça. Mais oui, mais tu vois, entre, mais il y a qu'un pas, si tu veux. Si t'as envie, si tu te sens allé, bah oui, enfin oui, évidemment, voilà. Point.
Le pragmatisme de Quine sauve beaucoup de choses, moi je trouve. Ouais,
d'accord. Emmanuel.
Ouais, sans vouloir non plus extrapoler sur ton ressenti, Fly, mais est-ce qu'il y a pas un moment aussi avec cet énorme bagage théorique où parce que je suis pas encore dans la belle catégorie des créateurs, mais
non plus techniquement, j'ai rien sorti.
Que vous êtes interdit un certain lâcher prise. Et
moi, je me suis jamais interdit un lâcher prise. Hein. Flavie pour en témoigner, je me suis interdit d'écrire
tout ce qu'il a
quoi
eu envie d'écrire.
J'ai toujours fait ce que je voulais.
En fait, moi, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle de déterminisme sur l'écriture du jeu.
Ouais, mais moi j'ai la sensation que la cellule transmet des peurs liées à la règle parfaite et compagnie.
En fait, moi ce que j'essaye de dire depuis le début du podcast, c'est aussi d'avoir lu plein de jeux en fait. Au même sens que quand j'ai vu plein de films de cinéma, j'avais le cinéma en tête. Là, j'ai lu plein de jeux de rôle, j'avais des écritures de jeux de rôle en tête. Notamment Dogs in the Vineyard, pour pas le nommer, même s'il a beaucoup vieilli.
Oui, mais l'écriture n'a pas vieilli.
Oui, l'écriture n'a pas vieilli. Et du
mais
coup,
tellement
j'avais...
analytique de
Xavier. Oui, mais il y a une raison si j'aime ce jeu.
Un philosophe analytique.
Oh, ouais.
Mais en fait, c'est parce que les philosophes analytiques sont de tradition anglo-saxonne et que si tu lis les anglo-saxons, ils écrivent tous comme ça, en fait. Hein. Dans la presse,
en anglais,
écrivent tous comme
en
ça.
En anglais, tu peux avoir tellement de richesse avec une préposition. Bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, moi c'est que j'avais en tête un déterminisme sur ce que doit être, sur comment doit être écrit un jeu de rôle, et que du coup quand les autres me donnaient des conseils, je les prenais. Tu vois ce que je veux dire? C'était en lien avec ce déterminisme-là.
Emmanuel.
Mais il y a un truc qui me paraît hyper hyper important et hyper impressionnant. Du coup, c'est que là, Fly, tu es dans ce tour de force. De créer directement quelque chose qui justement t'arrive ou t'es en train de couper avec tout un déterminisme et en fait je trouve ça hallucinant quoi, c'est inventer une nouvelle couleur d'un coup, mais vraiment au sens où tu sors de ton arc-en-ciel et en fait pour le coup du coup je me dis mais ouais qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher au fond de nous pour arriver à faire ce truc-là, pour arriver à bazarder toutes les idées qu'on a du jeu de rôle, toutes les idées qu'on peut avoir du roman, toutes les idées qu'on peut avoir de l'art ou de la vie en général. Et, enfin, ouais, je suis un peu en train de me prendre une claque là.
Alors, juste un truc, Emmanuel, toujours avec Flavie. C'est-à-dire, moi, depuis que je connais Flavie, et je dis pas ça parce que c'est ma femme, j'ai toujours vu ça chez Fly. Le premier essai de son jeu de rôle qu'elle a créé, Le Passage, j'ai lu l'introduction du jeu, j'ai fait putain, ce n'est pas un jeu, c'est un putain d'article théorique. On en a parlé ensemble avec Flavie, c'est devenu un podcast, le podcast sur le cinéma. Le podcast d'aujourd'hui, pareil. C'est-à-dire en fait, à chaque fois, le jeu de Flavie, pour moi, enfin quand la première version que j'avais lue, je lui ai dit, ça vaut article théorique. C'était tellement, enfin pour moi, quand elle m'a trouvé ce truc du cinéma, moi je me suis reconnu dedans. Ça m'a fait mal. Je me suis dit, putain, mais merde. En fait, j'aurais voulu être réalisateur de cinéma. J'aurais voulu être metteur en scène de théâtre. J'aurais voulu être écrivain. Et je suis rôliste. Tu vois? Et donc, tu vois? Et en fait, à travers l'article de Fly, je me suis reconnu à fond. C'est-à-dire le mec qui peut pas être réalisateur de cinéma parce que c'est pas à sa portée, c'est pas à son moyen. Donc, il va faire sens. Alors qu'en réalité, il aurait mieux fait de faire directement un film, tu vois ce que je veux dire quelque part. Ça, ça a été ton premier essai sur le passage. Introduction, tu prends ça déjà dans la gueule. Je trouvais ça génial à tel point qu'on en a fait un podcast. Maintenant, je sais pas si le... Est-ce que l'introduction là restera dans ton...
Je sais pas.
Je pense que
j'en ferai une, ça propose ce qu'on vient de dire.
Est-ce que ça veut dire que tu vas... Donc c'est pas la première fois. Elle en est pas à son coup d'essai, si tu veux, là-dessus. Donc est-ce que là, cette fois-ci, la claque viendra de cette histoire de transmission? En tout cas, voilà, c'est sûr que c'est très intéressant. C'est très intéressant et ça nous pousse. Enfin, moi, en tout cas, en tant que diffuseur de ces podcasts, en tant qu'animateur du podcast, ça me pousse aussi à une certaine remise en question. Parce que oui, moi, j'ai un idéal, en fait. Et cet idéal, c'est celui qui est en train de piétiner Flavie depuis le début de cette émission. Mon idéal, c'est qu'on puisse, à travers des règles et des propositions, transmettre un système tel qu'il a été pensé par l'auteur. Et donc, moi, je crois non pas en l'indétermination de la traduction, mais en sa perfectibilité permanente et, si possible, en sa perfection, moi, de la traduction. Moi, ce que j'essaye de transmettre à travers Vademecum, Sens, Leval, etc., c'est le système vraiment, mais parfait. Je mesure chaque mot pour essayer de transmettre parfaitement le système. Et ce qu'est en train de dire Fly là, c'est... Eh ben, je suis désolé, mon petit Romaric, mais ça...
Tu pourras jamais être sûr.
Tu pourras jamais être sûr. T'y arriveras jamais. Et ceci dit, je garde une certaine lucidité en parlant d'idéal. Je dis c'est mon idéal. Je ne dis pas que c'est ce qui est le cas. Parce que ça, ce serait extrêmement prétentieux, d'une part, selon moi. Ça voudrait dire que j'aurais trouvé le langage parfait. Et d'autre part, ce n'est pas le cas. Je le vois, je l'observe. Vademecum a eu des incompréhensions, Sens en a, etc., etc. Et puis, ça me pose aussi des questions autour de Fabien Invine. Quand Fabien Invine dit rechercher le langage de Babel, le langage parfait qui permettrait aux êtres humains de communiquer directement les uns. Est-ce qu'il n'est pas précisément en train de se heurter à ce problème de l'indétermination de la traduction et en train de nous dire il existe une solution qui est le langage de Babel? Et donc tout ça, forcément, tu vois, ça résonne avec, voilà, Fly, tu es mon exact opposé sur ce. Enfin,
c'est pas
que t'es opposé, mais
c'est juste que quand j'essaye de créer quelque chose, ça remue énormément de choses en moi. Et qu'en fait, c'est très très compliqué pour moi de créer sans réfléchir sur un truc.
Mais c'est global, hein, même quand je crée mes cours, même quand je vais faire du sport, même quand dans tout ce que je fais, en fait. Et donc, tout ce que je fais est une remise en question permanente de ce que je suis. Est-ce que je le fais pour de bonnes raisons? Est-ce que, enfin, tout le temps. Donc du coup, voilà. Je ne sais, quand je disais, il sera sorti peut-être même pas en 2022. Comme ce que je fais est une remise en question complexe et totale de toujours tout ce que je suis, est-ce que je peux même réussir à créer quelque chose? Mais d'un point de vue pragmatique, j'essaye.
En tout cas, t'auras fait de beaux podcasts.
J'essaye d'un point de vue pragmatique, mais est-ce que la façon dont je vis ma vie en étant constamment en remise en question de ce que je vis, de ce que je suis, etc., pour me permettre d'avancer, c'est une façon très chaotique de vivre, mais est-ce que ça permet de créer? Je suis pas sûre.
Je suis en train de penser à des tas de choses autour du passage, mais tu vois, c'est pareil, il y a une injonction à finir les jeux. Moi, je sais que moi, Fabien... On est toujours là en train de dire il faut finir les jeux.
Est-ce
tu
que
vois,
finalement c'est pas le voyage, dit... c'est pas ce passage qui me plaît,
ouais,
c'est
passage,
pas cette réflexion, ouais. C'est pas cette réflexion constante dans laquelle ça me met qui me plaît plutôt que le fait de finir un jeu, tu vois.
Ouais. Peut-être le trésor, ce n'est pas le trésor en lui-même, c'est le chemin pour le découvrir.
Et est-ce que finalement le passage 6 finit? Du coup,
je serais satisfaite.
Et puis derrière, est-ce que ça va pas générer exactement la même chose chez les gens qui vont jouer, et notamment ceux qui avaient déjà une certaine détermination rôlistique?
Je n'en sais rien.
Et
ce serait beau.
Auquel cas, ouais.
Mais je pense pas.
Il y a un truc qui me plaît quand même chez ce que dit Flavie quand même pour. Tu laisses la porte ouverte quand même, c'est-à-dire que tu dis il y a une détermination de la traduction. Mais j'ai la sensation que ça ne suppose pas qu'il existe une traduction parfaite quand même.
Il n'existe pas une traduction parfaite. Si, peut-être, mais tu peux pas le savoir. Tu peux pas savoir
si
c'est celle-là.
Voilà, mais ça c'est différent, tu vois.
Il peut y avoir une traduction parfaite, mais tu pourras pas savoir si c'est le cas. Et peut-être même un jour, tu auras cette traduction parfaite devant toi, et tu verras autre chose qui semble contredire cette traduction parfaite. Et tu la quitteras parce que, d'un point de vue pragmatique, de toute façon, ce que dit Quine, c'est qu'il faut toujours chercher plus loin. Il y a une raison si cet auteur, il m'a touché, je veux dire,
C'est tellement Wittgenstein. Là, je suis désolé, mais ça me fait vraiment beaucoup penser à Wittgenstein. J'ai l'impression qu'on est en train de regarder la même pièce, mais avec deux faces différentes.
Des yeux différents, ouais.
C'est hallucinant. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, je pourrais le dire d'une autre manière. Enfin, avec
ça nous amène pas aux mêmes conclusions.
Non, parce que, mais non, mais parce que pourquoi? Parce que ta quête à toi, là, en l'occurrence, dans ce podcast, c'était de faire un jeu de rôle. Moi, ma quête à moi, c'est de transmettre un système de façon parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma quête à moi, c'est la perfection. Alors que toi, ta quête à toi, c'est de finir quelque chose en ayant conscience. Et pour le finir, tu as besoin d'avoir conscience qu'il, de toute façon, il ne sera pas parfait. Moi, c'est complètement l'inverse. Pour finir une chose, j'ai besoin, au moment où cette chose est publiée, de me dire, elle est parfaite. Quitte à revenir à chier dessus 10 ans plus tard, comme je le fais avec Sens Renaissance en permanence dans ces micros. Mais au moins, le jour où Sens Renaissance est sorti, j'étais content de moi. Je me disais, ce jeu, il est parfait, il va révolutionner le jeu de rôle, etc. Et je le fais systématiquement. Chaque fois que je finis un jeu, je me dis, c'est bon, là, j'ai fait le jeu qui va... Je sais que c'est... Enfin, quelque part, au fond de moi, je sais que c'est pas le cas, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de cette conviction pour sortir un jeu. Toi, ce que tu nous dis, c'est... Moi, c'est tout l'inverse. J'ai besoin, au contraire, de la conviction que ce sera jamais parfait pour me dire que je peux le finir.
Tu vois, et
ce que
puis, je veux dire, en fait, différent. Je dois aussi t'avouer quelque chose. C'est que j'ai l'angoisse d'avoir une fin. Parce qu'en fait, c'est tellement intéressant de chercher.
Ah.
Que le fait de me dire que ce sera pas parfait me donne la possibilité de finir parce que ce sera pas une vraie fin. Je pourrais reprendre autre chose après.
On va parler du fait que tu finis jamais les grandes sagas que tu commences, comme c'est l'épouvanteur, ce genre de choses.
Non, je peux pas. Par exemple, là, actuellement, j'attends, pourtant, je suis arrivée presque à la fin, hein, les derniers Unrise sur la chronique des vampires, mais je refuse de finir ce livre, c'est impossible. Je le finirai quand le prochain sortira. C'est pas possible.
Ça m'évoque aussi le fait que la fin d'un quelque chose et la finalité de quelque chose, ça se dit pareil.
Parce que ça, en fait, si je finis ce livre, pour prendre l'exemple de Lestat, si je finis ce livre, en fait, je finis en fait la fantaisie autour, les fictions que je m'imagine, la suite que j'imagine. Je peux pas faire ça.
Mais oui, c'est tellement cohérent. C'est-à-dire que vu que ton intimité, vu que la Flavie qui nous maîtrise des parties de jeux de rôle n'est pas encore terminée, vu qu'elle n'a pas encore fini de nous maîtriser des parties de jeux de rôle, elle ne peut pas finir son livre. Parce qu'elle n'est jamais sûre à 100% qu'elle ne va pas trouver faire meilleur système dans une semaine, deux semaines, trois semaines. Et tu vois, c'est ça le truc. Finir le passage, ce serait quelque part te finir en tant que MJ de jeu de rôle.
C'est pour ça que ce pragmatisme m'aide, parce que je me dis que ce sera pas la fin.
Ouais.
Parce que c'est trop triste d'arrêter de réfléchir.
Ouais, je comprends. Mais tu vois, enfin, on va jusqu'au bout de la démarche et de ce que tu veux transmettre. On voit que ça va au-delà du système de jeu.
C'est pour ça que je dis que de toute façon,
c'est une part
quel que
de
soit
toi-même,
quand je parle de l'exhaustivité, il m'est impossible d'être exhaustif sur l'intégralité des choses que je veux transmettre. C'est pas possible, mais je pense que c'est vrai pour n'importe quel jeu.
Non. Moi, par exemple, j'estime tellement avoir transmis parfaitement ce que je voulais dans Vademécum, même si par ailleurs, Antoine Morgan, tout à l'heure, m'a montré qu'il manquait des choses dans ce jeu, ou Jérémy Klein, que je salue au passage, que tu vois, j'étais tellement sûr, tu vois, à la fin de Vademécum, je me suis dit, c'est le jeu parfait, dans la mesure où il transmet parfaitement le Vademécum tel que je l'imagine. Tu vois ce que je veux dire? Je m'étais dit que c'était parfait.
C'est
on
pour
m'a
ça
montré
que...
par la suite que c'était pas le cas.
Quand
mais
tu dis qu'on t'as l'impression qu'avec Wittgenstein et Quine, on a les mêmes idées, mais qu'on n'arrive pas au même point, c'est clair. Enfin, oui. on a le même constat et
mais
c'est
moi,
pas
j'ai
la même chose.
J'ai besoin de l'impression d'avoir, tu vois, j'ai besoin de cette, même si c'est pas une certitude, parce que moi c'est ça que je vois dans ton exemple, c'est que tu dis, on n'est jamais certain d'avoir transmis parfaitement son travail. On n'est jamais certain d'avoir transmis son travail. Moi ça, je suis sûr de ça. C'est-à-dire, ce que tu dis là, j'en suis sûr. Mais j'ai l'espoir. Et c'est ça le truc, c'est que moi je garde la foi qu'il existe quelque chose comme le jeu parfait. Tu vois ce que je veux dire?
Alors
et c'est
que
mon
moi
moteur.
Ça ne m'intéresse plus. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche qu'il y a autour.
Mais regarde, et c'est tellement corrélé avec autre chose. Rappelle-moi déjà de quelle religion tu es, Flavie.
J'aime pas trop en parler.
Tu ne crois pas dans le Dieu de la perfection,
pas
le
du
Dieu
tout.
Qui est un,
pas
le Dieu qui
tout.
Est tout. Donc, tu n'es pas comme moi.
Et je ne suis plus athée.
Je ne prétends pas
déjà
être catholique.
Quelques années. Hein.
Je n'ai pas voté François Fillon, contrairement à ce que pourraient laisser penser certains posters dans cette pièce. Mais j'ai gardé la... Oui, j'ai gardé une volonté pour la France parce que je trouve que sur cette image, il dit au revoir. Il dit au revoir. Au revoir, la droite. Adieu. Adieu, la droite. Je l'ai gardé, voilà. J'ai gardé ce tract. Je le trouve magnifique. Oh, ce François Fillon qui dit adieu au monde. Cette droite qui dit adieu au second tour. Je trouve magnifique.
Avec des gens qui lui agitent des mouchoirs en disant adieu. Et ces mouchoirs sont des drapeaux français.
Donc voilà. Bon, c'est dommage parce que la droite a finalement accédé au pouvoir grâce à Macron. Mais bon, bref. Alors donc, toujours est-il que je ne suis pas catholique en ce sens-là. Non, je ne manifeste pas pour. Je ne vais pas dans la manif pour tous. Je ne suis pas un catholique zombie. Mais je crois en Dieu, en l'existence d'un Dieu. Je suis ce qu'on dit déiste. Moi, je suis déiste. Toi, pas du tout, Fly, on est d'accord.
Ah, je suis Wicca.
Ben, je suis sûr que ça, tu vois, cette conviction, ces deux convictions-là, elles rentrent aussi en jeu dans ce qu'on attend d'un jeu. Voilà. Moi, j'ai la sensation que la recherche de l'idéal, c'est une condition pour avancer, pour s'enrichir, etc. Et Frédéric Sintès, quand je l'ai rencontré, me disait « Non, non, mais c'est tout l'inverse. C'est le doute, au contraire, qui permet de faire avancer la recherche. »
Je suis peut-être plus là-dedans.
Et voilà, et je pense que tu es plus de l'école pictavienne. Parce que moi, vraiment, de ce côté-là, pour moi, en fait, c'est la certitude qui se fracasse en fait sur la certitude d'autrui, c'est le combat des certitudes qui et peu importe si elles se brisent, tu vois, mais j'ai la conviction que c'est avec des convictions et des certitudes qu'on fait avancer les choses. Et d'autres diront non, c'est avec le doute, etc. Mais là encore, n'est-ce pas la face, enfin les deux faces, pardon, d'une même pièce. Et alors, si en plus c'est un contenu fictionnel malléable, alors là, il y a des milliards et des milliards de faces. On sait qu'il est indéterminé et compagnie. C'est une autre histoire. Voilà, voilà. Ça y est, t'es débloqué. C'est pas comme ça que tu vas finir ton jeu.
Je crois que c'est nous qu'elle a débloqué, là, excuse-moi.
Je sais pas si je suis débloquée, mais du coup, je passe dans une nouvelle partie d'écriture du jeu. Est-ce que ce sera la dernière, ça? J'en sais rien.
Eh bien, bon courage, en tout cas. J'espère, si vous avez bien compris, chers auditeurs, auditrices, vous aurez compris que j'espère que ce jeu ne s'arrêtera jamais, qu'il ne sera jamais fini. Donc, c'est assez paradoxal. Je dois l'encourager à ne jamais finir ce jeu, parce que moi, à titre personnel, j'aimerais bien qu'elle continue à nous maîtriser des parties de jeux de rôle. Mais en tout cas, voilà, si t'arrives à finir ce jeu, ce qui paraît assez contradictoire, c'est bizarre, mais...
On verra.
Parce que ça, c'est pareil. Je suis désolé, je vais relancer le podcast, mais finir un jeu, est-ce possible si ce jeu est imparfait, tu vois?
Oui. Au contraire. Parce que de toute façon, d'un point de vue pragmatique, ce n'est plus la question. De toute façon, il sera je ne saurais jamais s'il est parfait ou pas.
Pour moi, un jeu n'est jamais fini tant qu'il n'est pas parfait.
Moi, c'est même pas la question. Est-ce qu'il me plaira à moi? Est-ce qu'il me permettra de faire à peu près ce que je veux?
Bon, écoute, Solipsis, il est temps d'enlever nos masques, je crois.
Sans compter l'évolution constante de ce jeu et de ce moi. Ouais. Et d'ailleurs, the game is over.
Tu n'es pas le président, tu n'es pas le premier ministre.
Pas encore, pas encore. Mais quand t'es,
c'est peut-être un projet de carrière qui pourrait aider beaucoup. Ouais,
qui sait ce que le Brexit donnera. Hein, voilà, des têtes vont peut-être tomber.
Mais c'est vrai quoi, il y a cette idée en plus que quand on le regarde, quand on regarde 10 ans en arrière, il y a ce doute là aussi.
Moi, ça me fait regarder 10 ans en arrière. La cellule, et puis je me dis, putain, qu'est-ce qu'on a pu raconter comme conneries? Ou même si on n'a pas raconté des conneries, on les a dit avec des certitudes, avec des choses qui ont pu égarer.
On était des vieux cons avant d'être des jeunes.
Remettons les choses en contexte. Moi, je suis désolée. À l'époque où on a découvert ça, c'était ouvrir une boîte magnifique de réflexion, etc. On y allait avec la fougue de la jeunesse, et encore aujourd'hui, on y va avec la fougue. Et c'est ce qui fait aussi qu'on avance, et c'est ce qui fait que nos théories, elles ont évolué, et c'est ce qui fait qu'on évolue, et je ne m'excuserai jamais d'avoir pris le risque de parler dans un micro.
Oui, non, bien sûr. Non, mais par contre, ça peut être triste, par contre, tu vois, alors, de solliciter chez des gens des incompréhensions, c'est triste, par exemple.
Mais c'est dû à l'indéterminisation, je l'expliquais tout à l'heure, hein, sur ça lié à l'indétermination de la transmission.
Ouais.
C'est parce que quand tu crées un truc en disant ça y est, c'est fait, et que et finalement il est pas compris, il y a un côté extrêmement frustrant. Et c'est ce côté-là que du coup, en prenant conscience de ça, tu dis bah de toute façon c'était inévitable, il y a forcément des trucs qui seront incompris. Mais ça vaut pas le coup du coup de se dire que c'est pas le coup, ça vaut pas le coup d'essayer. Il faut au contraire essayer.
Eh bien, nous allons continuer d'essayer dans cette saison de La Cellule et les prochaines. Merci Flavie pour ce podcast de fou furieux. À très bientôt tout le monde. Merci Emmanuel. Portez-vous
bye,
bien.
À bientôt.
Et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte.